Bonjour, je m'appelle Jenna. Merci d'écouter nos voix trans. Ce podcast fait partie du collectif Nouvelles Radios Euphoriques. Vous pourrez en apprendre plus sur le site nre.fm. J'ai rencontré Anneli presque par hasard autour d'un projet que je trouvais formidable et qui me tenait à cœur. Un tiers-lieu qui serait à la fois queer, calme et sans alcool. Une sorte de sainte trinité qui semble aller de soi pour nombre de nos adelfes qui sont à la fois trans et neuroatypiques, mais qui continuent d'échapper aux personnes qui ont à la fois l'énergie et les moyens de mettre ce genre d'espace à disposition. Je cherchais en 2021 à aider à la promotion de la constellation par tous les moyens, et il se trouvait une personne trans dans l'équipe. C'est dans ce joli café, aujourd'hui malheureusement défunt, que nous avons enregistré cet échange, le premier en face à face. Depuis, Anneli a mis en place plein d'autres projets très cool que nous évoquerons en conclusion et dans les notes de l'épisode. En attendant, soutenez comme vous pouvez les projets que vous aimez autour de vous et bonne écoute. Enregistrement de Nos Voix Trans avec Anneli à la Constellation. Nous sommes le 1er avril 2021. Je viens de faire ça et c'est ridicule, je n'avais pas lancé l'enregistrement de ton côté. Enregistrement, 1er avril 2021 avec Anneli à la Constellation. Là, c'est bon.
Cool.
Ok. On va commencer directement avec une première question et une première partie de l'entretien qui est un peu personnelle. Et tu réponds que si tu es à l'aise. La première fois dont tu as entendu parler de transidentité.
Alors, je sais plus, je pense que j'ai pas de souvenir exact. Alors, moi, je me souviens de Laverne Cox dans Orange is the New Black. Je me souviens d'avoir eu une copine trans, une pote de pote qui a fait une transition. Mais c'était que des femmes trans, en tout cas. Moi, j'ai jamais vu nulle part de mecs trans, sauf dans Boys Don't Cry. Et c'est pas du tout une représentation positive. Mais en fait, j'avais un peu... c'est marrant parce qu'on pourra en parler après de Boys Don't Cry, mais moi, c'est vraiment un film qui m'a traumatisée. Mais parce que quand je l'ai revu la deuxième fois, en fait, la première fois, je l'avais vu assez jeune et je me suis dit, ah, c'est horrible, mais je pense que j'avais pas saisi les enjeux. Et c'est en fait en le revoyant après que je me suis dit, mais ce film est terrible, vraiment. Et mais donc voilà, et vraiment, ouais, ça a toujours été des femmes trans, en plus ça a toujours été des femmes trans au ciné ou dans les séries, donc majoritairement jouées par des mecs cis. Moi j'avais beaucoup aimé The Last Burger Club, donc avec Jared Leto, et c'est vrai que ouais, ça a toujours été plutôt ces représentations-là. Mais en tout cas, mecs trans vraiment... Aucun avant ma transition, c'est sûr.
Quand tu as revu Poison Cry, ouais, et que tu l'as vécu beaucoup plus durement, est-ce que entre temps, c'est parce que tu avais compris des choses,
ouais,
au sujet du film, au sujet
totalement
de toi ?
En fait, le truc, c'est que je l'ai revu en format de théâtre. Il a été monté à La Villette, donc ça s'appelait pas comme ça, mais c'était vraiment la même histoire. Enfin, c'était inspiré de la vie donc de Brandon Tina. Et moi, je l'ai revu donc fin 2019. Je venais juste de faire débuter ma transition sociale, et vraiment, j'ai trouvé la mise en scène hyper violente. Enfin, c'était vraiment horrible. Et en plus, c'était joué par une meuf cis dans le rôle de Brandon. Donc moi, j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup, après, j'ai revu le film une deuxième fois. De quoi ?
Pour vérifier.
Ouais, voilà. Enfin, je me suis dit, bon, bah, je vais vraiment revoir le film, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais ça va pas du tout. Enfin, rien ne va dans cette histoire. Moi, je trouve ça, mais... Alors, certes, c'est un film qui date d'il y a 20 ans. Mais en fait, le fait de le remonter 20 ans plus tard au théâtre et de même pas avoir ce truc de le faire jouer par un mec trans, mais vraiment, j'étais hallucinée que cette histoire-là soit encore racontée avec une meuf cis dans le rôle et toujours avec cette espèce de regard malsain sur la souffrance et sur l'horreur de certaines réalités trans qui sont pas en fait toutes les réalités. Et je trouve ça horrible qu'on ait ce film en top des représentations de mecs trans dans la culture pop, quoi. Vraiment, ça m'hallucine. et surtout qu'elle ait gagné l'Oscar. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont hyper symboliques autour de ce film-là, de cette histoire-là, qui me hante vraiment. Et moi, l'impact que ça a eu, c'est que, en fait, moi, j'ai une vraie peur, en fait, de me retrouver dans des espaces communs avec des Mexicettes, type des toilettes ou des vestiaires de sport. Genre, moi, à un moment, j'allais à la salle, mais genre, j'allais chez les meufs, c'est sûr, quoi. Moi, je vais pas chez les mecs. Enfin, c'est hyper irrationnel, en fait. Mais moi, il y a vraiment cette hantise de me faire agresser comme Brandon dans Boys Don't Cry par des mecs 6-7, en fait, qui découvrent la vérité de ton identité de genre et qui pètent un câble et t'agressent et te tuent, quoi. Enfin, c'est vraiment irrationnel. Mais moi, c'est cette hantise-là que ça a créé vraiment chez moi, qui fait que je ne vais pas dans ces endroits où... ouais, je pense toilette, vestiaire, où t'es un peu en comment ça s'appelle...
Intimité.
Ouais, oui, c'est ça. Enfin, où t'es en tout cas en situation de vulnérabilité, et on peut, c'est des espaces clos où on peut totalement, en fait, t'agresser, quoi. Donc vraiment, voilà.
Et manifestement, il y a une équipe qui n'a rien appris en 20 ans, en fait, qui a décidé de reproduire ça. J'imagine que ça doit être encore plus violent sur scène.
Ah, mais c'était...
Par rapport à une version de...
Ouais, c'est horrible, parce que l'histoire, elle est horrible. Enfin, ouais, je mets un trigger warning viol là-dessus. Mais c'est l'histoire de Brandon Cena, c'est un jeune mec trans, vraiment dans l'Amérique rurale de je ne sais plus quelles années, mais au XXe siècle, qui a une... qui ne dit à personne qu'il est un mec trans, qui arrive à avoir un assez bon passing, à avoir une petite amie. Et en fait, quand il y a des mecs, ses potes, qui découvrent qu'il est trans, qui pètent un câble et le viole et le tue, quoi. Enfin, là, c'est une histoire vraie, donc bien sûr que c'est une histoire qui est importante à dire pour parler des réalités, et surtout que ça arrive aussi aux mecs trans, en fait, que c'est pas... que les violences sont vraiment partout. Mais c'est pas une histoire à remonter comme ça sur scène 20 ans plus tard. Enfin, je sais pas, on n'a rien appris des luttes trans. On était en 2019, fin 2019. Donc, il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées. Il y avait tous les comptes Instagram qui s'étaient créés. Il y avait le documentaire d'Océan. Enfin, il y avait... on était vraiment dans le début du pic, en fait, de la visibilité trans, de cette espèce de nouvel élan où on parlait vraiment... Enfin, il y avait vraiment de la visibilité avec des jeunes personnes sur Instagram notamment. Et en plus, c'est une équipe LGBT qui l'a fait. Et ça, je le sais très bien. Enfin, ça, c'est un enfer parce qu'en plus, le truc que j'ai appris après, c'est que moi, j'ai un copain trans qui était stagiaire au théâtre ou avec la compagnie, je ne sais plus, un des deux, et qui m'a dit, en fait, je n'ai rien pu faire pour les en dissuader. Et c'est horrible parce que, en fait, on a beau leur dire, il y a beau avoir quelqu'un de concerné dans la création qui est à côté, qui leur dit, ne faites pas ça, c'est pas OK et tout ça, et les personnes n'écoutent pas. Et après, en plus, sont hyper fiers de présenter ce projet en disant, voilà, ça montre les violences, on est vraiment des alliés, etc. Mais...
Je vois pas l'intérêt pédagogique, en fait, de montrer cette histoire aussi brute. C'est, et si ma mémoire est bonne, en fait, l'histoire du film, en plus, a perverti quelque chose dans l'histoire originale, qui avait des éléments plus positifs que ça, qu'ils ont décidé de ne pas montrer dans le film.
Exactement, ouais.
C'est vraiment...
C'est vraiment faire du malheur pour du malheur. Et moi, ça me fait penser au film de Lola vers la mer, de je sais plus quel est le réalisateur, là. Mais moi, je l'avais vu en avant-première au festival Chéri Chéri. Donc, il y avait le réalisateur qui était venu sur scène pour dire à quel point il était fier de faire ce film, que c'était un cadeau pour la communauté trans, etc. Alors que, bon, clairement, c'est quoi ? C'est un cis mec gay, blanc, enfin, qui n'a pas eu de problème à monter son film, enfin, a priori, qui n'a pas eu trop de barrières à l'entrée. Et ce film, et surtout, il était hyper fier, et il avait vraiment l'impression d'avoir inventé l'eau chaude en faisant jouer une meuf trans dans le rôle de la jeune femme trans. Mais ça, c'est juste le minimum syndical, merci, pas merci. Enfin, on va pas applaudir sur ça, quoi. Et après, le film, c'est un ensemble de... je pense que tout le personnage trans dans ce film... la jeune fille, elle coche mais toutes les cases de ça va pas parce que je suis une personne trans, quoi. On la deadname de tout le long. À un moment, elle va à la pharmacie chercher ses hormones, on lui refuse. Il y a un contrôle de police, il la croit pas avec sa carte d'identité. Enfin, il y a des flashbacks d'elle en train de se faire cogner quand elle est enfant. On ne l'a pas loupé, mais alors on ne l'a pas loupé de A à Z, quoi. Vraiment, c'est.
Je l'ai toujours pas vu et on me l'avait vendu plutôt comme un des bons films. Oh mon dieu. Ok.
c'est terrible de se dire que la barre est tellement basse que
quand il y a
enfin une représentation, on va même pas dire positive, mais neutre, du fait d'avoir une actrice trans pour jouer un personnage trans, et déjà ça c'est déjà au-dessus de la moyenne, quoi.
Exactement. Alors oui, vraiment, le réalisateur, mais il avait l'impression d'être le plus grand des oufs en ayant une actrice trans, quoi. Merci, quoi. Vraiment, c'est trop bon.
Mmh. Tu parlais d'Hilary Swank tout à l'heure, qui a eu un Oscar, et je pense que c'est connu maintenant à Hollywood, et peut-être que maintenant, ça va un peu changer, que le jour où tu arrives à jouer un personnage trans de manière obligatoire, tu vas avoir un Oscar au bout. Et ça serait bien que ça change, effectivement.
Ah oui, c'est un enfer. Bah, Eddie Redmayne l'a eu. Enfin, non, il l'a pas eu, mais il a été nommé pour The Danish Girl. Et aussi, il y a tout le truc qui est marrant, là, c'est maintenant qu'il y a Elliot Page qui a fait son coming out et qui a dit qu'il allait continuer de jouer le rôle dans The Umbrella Academy. Et que les gens sont en mode, mais attends, mais si t'es un garçon, tu vas pas jouer le rôle de la fille, etc. Et en fait, la réponse est oui, mais dans ce cas-là, enfin, pourquoi vous faites jouer des acteurs cis pour des rôles de femmes trans? Enfin, vous le faites depuis des années. L'inverse, c'est aussi possible, en fait, les gars. Enfin, donc, moi, je trouve ça drôle, en fait, maintenant que ça arrive, que on a des acteurs, des actrices trans qui ont beaucoup plus de visibilité, de pouvoir se permettre ça et de dire, en fait, voilà, c'est pas que dans un sens, quoi. Ça marche aussi et qu'on arrive à avoir ce genre de problématiques qui viennent sur le tapis. Je trouve ça vraiment intéressant, et ça, on voit que ça fait bouger les choses.
Une grande, longue réponse sur une première question.
On peut digresser à fond.
Non, non, mais en même temps, c'est super intéressant et souligner à quel point la représentation trans est à la fois très importante et actuellement relativement pas top. Je veux pas dire complètement déplorable, parce qu'il existe aussi des choses positives et qu'il faut les encourager. Comment est-ce qu'avec tout ça, avec tous ces exemples-là, à un moment donné, est-ce que ça a fait un lien avec toi, ou est-ce que tu l'as trouvé en toi, ou est-ce que tu l'as trouvé ailleurs ?
Alors, moi, le sujet, c'est d'abord été de se dire de pas être hétéro, en fait. Enfin, c'est déjà la première porte, mais tout a été très, très vite. Dans le sens où j'ai d'abord traîné beaucoup avec des mecs gays, des PD, moi, j'ai... Il se nomme comme ça, donc je les nomme comme ça aussi. Donc vraiment le milieu PD à fond, toutes les soirées, vraiment plein de choses, des super potes, le milieu de la mode, etc. Un truc très paillette, mais en même temps, en fait, très libéré et très assumé. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé en étant à Paris, parce que je viens pas du tout de Paris, mais je viens vraiment d'un milieu très rural, je viens de la Vendée, donc milieu catho, de droite. Donc heureusement, je viens d'une famille de fonctionnaires, enfin d'enseignants, de gauche, dans tout ce gros... dans toute cette population où le FN flambe. Enfin, voilà, c'est pas du tout un milieu très, très friendly. Donc, moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fuite de venir à Paris, comme beaucoup de personnes queer rurales. Enfin, c'est vraiment un truc très présent, qu'on peut lire chez Didier Ribon ou Édouard Louis, notamment, et dans lequel, moi, je me reconnais totalement. Et du coup, moi, ma première porte d'entrée, ça a vraiment été ces gens-là que j'ai rencontrés dans mes études d'art, parce que j'ai fait des études d'art. Mais il y a le milieu lesbien m'a toujours beaucoup effrayée et continue en fait de le faire, dans le sens où il y a plein de choses que je comprenais pas. Et je pense que j'avais un peu peur de moi-même aussi là-dedans, de se dire des choses. Moi, je trouve ça toujours incroyable, en fait, les placards qu'on se fait soi-même dans sa tête, les barrières qu'on se met, parce que j'ai jamais eu de barrières. Mes parents sont très cool. J'ai été dans un lycée incroyable où tout le monde était très, très ouvert. J'ai fait un lycée d'art en Vendée qui m'a vraiment, je pense, très clairement sauvé la vie, où il y avait des gens queer partout. Et moi, il y avait toujours cette phrase qui me disait « Mais si je l'étais, je l'aurais déjà dit, enfin, je le saurais déjà. » Et je trouve ça vraiment... Mais fascinant, en fait, à quel point on s'auto-embrigade dans sa tête et dans des schémas, en fait, qui sont pas faits pour nous, mais dans lesquels on se persuade. Et je pense que si j'avais pas été à Paris ou si j'avais pas rencontré ces gens-là, en fait, je serais restée dans une vie qui m'aurait pas, peut-être pas forcément totalement déconvenue. Enfin, je pense que j'aurais trouvé des comptes, mais il y a ce truc de... on trouve pas la vérité parce qu'on sait même pas de quoi on parle, en fait, de quelle vérité on attend. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc de toute personne queer qui n'était pas au courant avant qu'il y avait ça, quoi. Et vraiment, pourtant, moi, j'étais au courant, il y avait des gens autour de moi, mais ce truc de « c'est pas moi, parce que sinon, je l'aurais déjà dit, parce que j'ai... » Enfin, voilà. Il y avait cette première barrière qui était autour de l'orientation sexuelle. Et alors, moi, un truc qui m'a beaucoup, totalement chamboulé, c'est l'album de Chris. Donc le deuxième album de Chris and the Queens s'appelle Chris, où elle est revenue sur scène, enfin sur le devant de la scène, où elle s'était coupée les cheveux. Et genre, mais moi, cette image-là qu'elle avait dans ses clips et sur sa pochette d'album, où elle était ultra androgyne et je sais pas, elle draguait des gens dans ses clips. Enfin, je sais pas, ça m'a totalement retourné le cerveau, mais vraiment. Et donc ça, on est en août 2018. Et donc moi, j'étais mais totalement ahuri de voir ce truc, cette représentation très très pop en plus. Enfin, c'est quelqu'un d'hyper mainstream. Maintenant, c'est pas du tout une figure indé et qui explosait comme ça à la radio et sur YouTube et tout ça. Enfin, moi, j'étais totalement chamboulée de ce truc. Donc, petit à petit, je commence à me poser des questions tout vers la fin 2018. Et puis, j'avais mes copains qui étaient là. Et j'avais plein de lesbiennes dans mon entourage. Je savais que c'était ok, mais il y a ce truc de le dire. Maintenant, faut le dire, faut se le dire dans sa tête, et c'est pas grave, et ça va bien aller, ça va bien se passer. Et j'avais pas envie de faire de coming out, parce que je trouve ça vraiment terrifiant de se dire « papa, maman, asseyez-vous », etc. Donc je l'ai dit à personne, en fait. Je suis allée au concert de Chris, tout seul, en décembre 2018. J'ai pris ma place vraiment un jour avant, et j'ai pleuré tout le long, mais vraiment tout le long. Et le soir, en sortant du concert, je suis retournée voir mon meilleur ami. Je suis allée chez lui et je lui ai dit mais je comprends pas, c'est vraiment très bizarre, j'ai vraiment l'impression d'être un garçon au fond, mais c'est idiot parce que c'est pas possible, mais il y a ce truc, j'ai cette idée là, je j'arrive pas à m'en sortir avec ça, quoi. Et je connaissais pas de mec trans, vraiment j'en avais aucun dans mon entourage, je savais pas de quoi on parlait, je connaissais que des meufs trans et je savais que ça devait exister, mais il y avait pas le lien qui se faisait, quoi. Et du coup, à partir de là, je me dis bon bah c'est juste que je suis lesbienne, quoi, c'est pas très grave. Et du coup, je dis rien, mais juste, je dis à mes potes, voilà, je me suis mis sur Tinder. Le Tinder lesbien. Et ils m'ont dit, ah ok, bah cool. Voilà. J'ai pas dit je suis lesbienne, j'ai pas dit je suis bi, j'ai rien dit du tout. J'ai juste dit ça, et tout le monde... Je savais très bien que tout le monde savait déjà, etc., qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas d'embrouille. Et moi, j'étais juste soulagée, et en fait, toutes les personnes avec qui je matchais, c'était toujours les mêmes profils, c'était toujours des meufs ultra androgynes, voir des mecs trans, etc. Et j'avais vraiment cette espèce de galerie de photos dans mon Tinder où j'étais, mais je sais pas quoi faire de ce truc-là, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe.
Est-ce que c'était une surprise par rapport aux personnes à qui t'étais attirée d'habitude ?
Non, parce que moi, avant, j'étais avec des mecs, des mecs 7, mais qui étaient très androgynes aussi, en fait, voire pas forcément hétéro, je pense, enfin, pour certains, et des crushs aussi beaucoup sur des PD et tout ça. Donc il y avait déjà espèce d'ambiguïté avant de « ça marche pas, en fait, il y a un truc qui fonctionne pas, j'arrive pas, tout est décalé, à chaque fois ça va pas, les relations fonctionnent pas, je comprends rien, j'y arrive pas ». Moi, je m'étais jamais mis sur le Tinder hétéro, par exemple, j'avais jamais osé faire ce truc, je m'étais dit « je vais me faire agresser, ils me font peur, en fait, ces gens-là, moi, je tombe sur eux ». Au hasard, et des fois ça se passe bien, mais je pense que j'ai toujours subi un peu ce truc-là, et c'est vraiment que j'ai eu très peu de relations en fait avant ma vie queer, quoi, parce que vraiment je ne saisissais pas comment ça marchait, et je pense que si j'avais pas connu des personnes queer, je pense que je serais restée dans ce truc-là de un peu de pas de terreur, mais en tout cas d'incompréhension, et j'aurais un peu subi les choses, je pense. C'est terrible de subir sa sexualité, ou en tout cas sa vie affective et romantique. Donc voilà, il y avait ce truc sur Tinder. Et moi, en plus, moi, à l'époque, j'étais très femme, et j'ai toujours adoré ça, en fait, avoir les cheveux, le maquillage, tout en ayant... Enfin, sans jamais être vraiment ultra, ultra femme, mais les talons, enfin, tous les trucs qui faisaient femme puissante, en fait. J'aimais vraiment beaucoup cette image-là de girl power et de femmes entrepreneuses, etc. Moi, je montais plein de projets, etc. J'étais à fond dans mes études, je réussissais tout. Enfin, j'avais vraiment une vie ultra tracée, quoi. Enfin, j'avais eu mention très bien au bac. Enfin, vraiment, j'étais une bête de concours, quoi. Et j'avais tout pour réussir ma vie de meuf cis hétéro, mais nickel, quoi. Et pourtant, ça marchait pas. Enfin, il y avait un truc qui marchait pas et qui me crispait. Et du coup, dans cette approche-là, avec ces filles butch ou tomboy ou très androgynes, ou ces personnes qui étaient un peu non-binaires aussi, ou mecs trans, je sais plus trop qui y avait, mais il y avait ce truc-là, je me disais, en fait, moi, j'ai envie d'être comme elles, j'ai envie de ressembler à ça, mais si je le fais, en fait, je leur plairai plus. Parce que j'avais cette représentation dans la tête où je m'étais dit, en fait, ces filles-là, elles sont forcément attirées par des meufs femmes, et inversement, et il n'y a pas d'autres représentations. Et c'est vrai, en fait. Je pense que aussi dans la pop culture, les couples lesbiens, quand il y en a, ou même les couples gays, hein, c'est souvent une personne très masque, une personne très femme, et voir ces deux lesbiennes femmes. Mais vraiment, moi, les butch plus butch, ou en tout cas deux meufs androgynes ou quoi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, ça doit exister, mais à part dans...
Il y a forcément une hétéronormativité pour compenser le...
Ouais, franchement, je pense qu'il y a une espèce de truc qui est frais dans la butch ou la lesbienne tomboy de rentrer dans le cliché à chaque fois. J'ai l'impression que les scénaristes se disent non, on va pas, ok, on l'a fait lesbienne, mais on l'a fait lesbienne comme tout le monde, quoi. On veut montrer, on veut pas qu'elle rentre dans ces clichés là, quoi. Et du coup, je trouve que ça crée un manque de représentation de ce côté là qui fait que même sur ces personnes là en fait, il y a pas de représentation. Moi, j'ai un souvenir d'être allé voir Millennium au cinéma juste pour voir Lisbeth Salander, parce que c'était il y avait que ça, quoi. Enfin, donc il y a ce truc là où je sais pas me couper les cheveux parce que j'avais peur de plus plaire après. Et enfin, en tout cas, de basculer dans un truc où je m'étais dit, en fait, mon apparence ne sera pas coordonnée avec mes attirances. Enfin, il y aura un truc qui ne marchera pas encore. Et en fait, je suis allée à une soirée qui s'appelle la Kindergarten, qui est une super soirée où il y a plein de drag queens qui se passent sur une péniche. Je ne sais plus le nom de la péniche. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en club, j'ai tout oublié. Et du coup, j'y suis allée, et là, en fait, je suis tombée sur une personne qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, mais vraiment, et j'ai été tout de suite très attirée par cette personne, au fond de la salle, vraiment un espèce d'éclair, enfin un truc où tu vois la personne, tu te dis waouh, il se passe un truc. En plus, moi, je bois jamais, je prends pas de drogue, donc j'étais vraiment très très lucide, enfin, j'avais pas de sensation de flou par rapport à ça, je m'en souviens très 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 bien. Et en plus, j'avais de la chance parce que cette personne, elle était en train de parler avec une personne que je connaissais vite fait, en fait. Donc ça m'a tout de suite laissé une porte d'ouverture où je suis allée parler à mon pote, là, qui n'était même pas un pote, que j'avais déjà croisé deux fois. Parce qu'il y a un truc, en fait, que j'ai voulu vérifier très vite. Et c'est là, en fait, où on se rend compte à quel point les schémas dans nos têtes sont terriblement normés et que si on ne sait pas, en fait, on rentre dans des moules. C'est que moi, cette personne, je l'ai vue et je me suis dit, ok, alors là, on est dans une soirée queer. Donc si c'est une lesbienne, elle va avoir la voix claire. Et j'aurai toutes mes chances. Mais si c'est un mec, si c'est un PD, en fait, il aura la voix grave. Et là, c'est foutu pour moi. Et en fait, et du coup, moi, ce que j'ai voulu voir en allant parler à cette personne, c'est entendre sa voix. Parce qu'en fait, tout était très très clair. C'était une personne qui était ultra androgyne, donc c'était soit l'un soit l'autre, et tous joueraient à la voix, quoi. Et cette personne avait la voix claire. Donc je me suis dit, lesbienne, c'est pour moi. et c'était la première personne queer sur laquelle j'avais un énorme crush et que je draguais ouvertement. Enfin, c'était vraiment un premier truc, quoi. Du coup, on s'est parlé très vite, et il y a toute une espèce d'alchimie très très vite où vraiment, enfin, on a passé la soirée ensemble et on a fini par s'embrasser, etc. Et en fait, avant de l'embrasser, cette personne m'a dit son prénom, et qui a un prénom mixte. Et du coup,
plus avancé.
Et du coup, il n'y a pas eu d'autre histoire. Et en fait, après, elle est partie, cette personne, elle m'a laissé son numéro. Et du coup, moi, j'étais totalement... J'étais hyper heureux, en fait, d'avoir réussi un truc, en fait. Pour moi, c'était ça y est, j'ai pécho une fille. Incroyable, ça marche, quoi. C'est vrai, c'est une... Ça... Et puis, une personne qui me plaît de ouf, en plus, qui est tellement belle. Et du coup, mes potes m'ont dit, mais t'es sûre que c'est une fille? Et moi, je me suis dit, mais attendez, c'est moi qui l'ai embrassée. Oui, c'est sûr et certain. Et après, du coup, on se parle par message et tout. Et à un moment, je la genre au féminin. Et évidemment, qu'est-ce que me dit cette personne? Elle me dit, par contre, moi, je suis pas une fille. Je suis un mec trans, en fait. Et là, mind blows total dans ma tête. Et en fait, j'ai une réaction qui n'est pas du tout une réaction de rejet. Mais parce que je ne sais pas quoi faire de cette info. Et je lui dis, en fait, est-ce que tu veux qu'on se revoie? Parce que moi, ça m'intéresse trop, quoi, d'en parler. Et du coup, on devait se voir le mercredi, on s'est revu le lundi. La soirée était le samedi. Ouais, on devait se revoir le mercredi, on s'est revu le lundi soir. Et on a passé deux mois ensemble sans se quitter, en fait. Mais vraiment, ça a été très, très fusionnel, très vite. Mais pourtant, c'était une personne avec qui je m'entendais pas si bien que ça, on n'avait pas tant de points communs que ça, etc. Mais il y avait ce truc où moi, j'étais tellement accrochée à cette personne, de ce qu'elle représentait, de vraiment que c'était vraiment un truc de survie, quoi. C'était pas de l'amour, c'était pas de la tendresse, c'était vraiment une espèce de sensation de... J'ai besoin de savoir, en fait. Et en fait, ce mec m'a dit très vite, mais au bout de 2 semaines, il m'a dit, mais tu sais, on pourra parler de ton genre un jour, si tu veux, et tout. Et moi, j'étais, ah non, mais pas du tout, il n'y a rien.
Mais pourquoi?
Tout va bien. et du coup, je me suis coupé les cheveux très vite. Et en fait, est arrivé ce qui est arrivé quand on est en situation de dépendance et de possession, enfin, quand la relation n'est pas saine, pas équilibrée. En fait, il a arrêté de me parler. Enfin, il m'a quitté une première fois, on s'est remis ensemble, il m'a quitté une deuxième fois, on s'est engueulé. Enfin, rien n'allait. Et parce que moi, je ne voulais pas lâcher l'affaire, alors que tous mes potes étaient, mais ça va pas, vous voyez bien que ça ne marche pas. On t'aime, on l'aime bien passer du temps avec lui, mais juste, vous faites trop de mal, arrêtez ça, quoi. Et moi, je ne voulais pas arrêter. Et il a fini par arrêter de me parler, en fait, tout simplement par me ghoster, parce que j'étais trop, trop là, quoi. Et moi, je lui ai envoyé des pavés, des messages, je lui ai écrit des lettres, enfin, vraiment horrible, enfin, vraiment le harcèlement de l'ex relou, mais parce que, enfin, je l'excuse pas, mais en tout cas, je l'explique, mais moi, j'avais besoin de savoir. Et le truc, c'est qu'après, en plus, c'était vraiment, on était en début 2019, donc il y avait tout ce truc de, tu vois, le compte de Lexi, Agressively North France, explosait vraiment. Il y avait Océan qui avait fait son coming out, où il y avait, tu sais, qu'il y avait le documentaire en préparation. Enfin voilà, il y avait vraiment une espèce de projecteur qui était tout d'un coup braqué pour découvrir toutes les luttes, toutes les transidentités. Et surtout avec lui, moi j'ai découvert ses potes et plein d'autres mecs trans aussi. Et je me suis dit, mais en fait, mais ça concerne, c'était possible en fait, il y a tellement de gens, c'est un truc incroyable. Mais le truc c'est, et du coup j'ai passé, je m'en souviens très bien, je suis allée en août, il m'avait quittée, j'étais terriblement triste et seule, et il ne me répondait pas, évidemment, et moi j'insistais, et évidemment, il a fini par me bloquer, évidemment. et je me souviens, j'étais en Italie avec mon père, en vacances, et je lui ai écrit un dernier message, je pense qu'il n'a jamais lu, du coup, à 3h du matin, en me disant, mais voilà, quoi, moi je suis comme toi, en fait. Et du coup, après, je suis rentrée, on était donc en septembre 2019, et j'ai fait une longue story de coming out sur Instagram, et qui a été mais ultra bien prise en plus. Enfin, les gens ont été hyper sympas, mais des gens m'ont écrit, mais des gens que j'avais pas vus depuis le collège, des gens, tous mes potes, enfin, et tout s'est fait hyper, hyper bien. Donc je me suis dit, ah, mais en fait, tout va bien, quoi. Tout va très bien. Et après... Moi, j'ai tout de suite voulu rentrer dans ce truc de rentrer dans la communauté lesbienne d'un coup, en fait, parce que j'y avais jamais été fait partie. Et du coup, fin tout 2019 et jusqu'à début 2020, moi, j'étais à fond. Je faisais du dragging, j'étais tout le temps à la mute. Enfin, je m'étais dit, ouh, ça y est, je vis ma vie queer à 100%. Et je m'étais acheté un binder. Et alors que, voilà, il y avait tout ce truc, en fait, d'être la bonne personne trans, ou en tout cas de me sentir aimée, en fait, je pense, et de performer un espèce de truc, d'être là où il faut, et d'être aimée, d'être valorisée par mon physique. Et maintenant, ce que j'en analyse de ça, c'est que moi, le truc, c'est que moi, j'ai la gueule de l'emploi. Enfin, dans le sens où ce que je dis, c'est que moi, il m'a suffi de me couper les cheveux, mais j'ai un visage très carré, des traits réguliers, je suis blanche, je suis mince, je suis valide. En fait, ça suffit, quoi. Il y avait ce truc-là où tout de suite, j'ai senti que je plaisais dans la communauté lesbienne, mais parce que je plaisais parce que j'entrais dans un type de lesbienne très normé, en final, et que moi, j'ai eu besoin de cette validation-là, et j'ai eu besoin d'avoir ma chaîne en argent et mes tatous et tout ça pour me sentir faire partie d'un truc. Et voilà. Et maintenant, ce que j'en lis après ça, c'est qu'il y a un peu une sorte de fétichisation aussi de l'androgynité, des corps comme ça, de mecs trans ou personnes non binaires qui font pas de transition comme moi, pas de transition médicale, et où on continue de les considérer comme des gouines, et où en tout cas on fétichise un peu ces corps-là, de twink. Enfin, c'est pareil chez les gays, en fait. C'est une espèce de truc. Et moi, je trouve ça de plus en plus dérangeant parce que ça véhicule une image de ce que c'est de androgynité égale transidentité, alors que c'est pas vrai, que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, la transition de corps. Et donc voilà, c'est une vraie réflexion que j'ai eue, je pense, après, parce qu'après, en 2020, bah, voilà, on a été... Enfin, il n'y avait plus le club, il n'y avait plus de bar, donc il n'y avait plus vraiment d'endroit où aller, etc. Donc je pense que enfin, les communautés étaient sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il n'y avait plus de performance de corps de possible. Donc moi, ça m'a permis vraiment d'y réfléchir et de poser les mots là-dessus, de c'est quoi, en fait, performer comme ça son corps trans dans un schéma de lesbienne normée, sans en être une, mais en même temps en étant attirée par ces personnes. Enfin voilà, il y avait tout un truc sur ça. Et maintenant, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Moi, je m'en fous maintenant, je pense, de séduire. Enfin, je sais, en fait, que c'est plus une histoire de gueule. Enfin, je m'en fous que les gens écrivent sur moi sur Instagram. J'en ai reçu beaucoup des messages. et en fait, je me dis...
T'es blasée maintenant ?
Quoi ?
T'es blasée maintenant ?
Non, je sais pas que je suis blasée, mais je me dis, en fait... Si c'est juste ma gueule qui vous intéresse, il y a plein de gens. Enfin, tu vois, et surtout, ma gueule et mon corps, c'est des trucs. Je sais sur quoi sont construites ces attirances-là. En fait, ça m'intéresse pas juste parce que si je suis blanc, mince, c'est valide et que j'ai la gueule droite, que je plaise juste pour ça. Bon, c'est pas très pertinent, quoi. Voilà.
Ouais. Je voulais te poser la question d'éclaircir sans donner l'impression de te blâmer. Mmh. Est-ce que tu cherchais cette fétichisation en allant paradoxalement, dès ton coming out de mec trans, d'essayer de rentrer dans la communauté lesbienne ?
Oui, ouais, je pense. Moi, parce qu'il y avait ce truc-là de je voulais être. En fait, j'ai eu un boulevard qui s'est ouvert à moi parce que moi, je me suis coupé les cheveux. Et j'ai adopté un look androgyne de découvrir, de plaire, en fait. Découvrir la séduction, vraiment. Parce que moi, ça, comme je disais, ça ne marchait pas avec les mecs 6-7. Il y avait un truc qui coinçait toujours. En plus, moi, au lycée, j'ai des copines qui sont toujours mes copines maintenant, qui sont hyper belles. Mais genre, vraiment, toutes, elles sont ultra jolies. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là d'être un peu la moche du groupe, quoi. Et ça m'allait bien, en fait. Enfin, c'est pas grave, moi, je suis moche, mais je suis pas
une personnalité.
et je m'en foutais un peu, mais il y avait quand même ce truc-là d'ego où tu te dis, bon, bah, si je suis pas très belle, et du coup, je vais forcément pas être avec les mecs qui me plaisent, parce qu'il y a une espèce d'échelle. Je trouve, en plus, l'hétéronormativité, c'est très simple d'être la... Enfin, c'est très simple d'avoir les codes de la bonne meuf. Après, l'être, c'est encore autre chose. Mais disons, on sait très bien le type de meuf qui plaise et on sait très bien ce qu'il faut pour être valorisé dans le regard des mecs 6-7. On sait très bien aussi que cette échelle est déséquilibrée, que des mecs absolument lambda, voire carrément chum... Enfin, moi, des fois, je vois des couples dans la rue, mais je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est totalement sublime et lui, enfin, il est totalement basic. Enfin, bref, il y a tout ce truc où, en fait, de la bonne meuf, comme dit Virginie Despentes dans King Kong Theory, où moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rentrer dans ce truc-là, et je m'étais un peu résignée, donc je suis moyen, quoi. Je suis ok, je suis passable, et du coup je me taperais que des mecs passables, et tant pis. Et moi je pas ça, mais personne devrait se dire ça, en fait. Je veux dire, moi le vrai truc, c'est moi je suis une bombe, mais je vais me taper des bombes, quoi. C'est ça, je sais pas. Moi je veux que tout le monde se dise ça, quoi. Et du coup, moi, j'ai découvert cette espèce de porte ouverte de la séduction où là, en fait, les gens avaient un intérêt vraiment pour ma gueule. C'était facile, en fait. Mmh. Et je pense que ce truc-là, je l'avais tellement jamais eu que j'en ai profité, clairement. Mmh. Et pas profité dans le sens où je me suis tapé plein de monde, parce que, en fait, ça m'a toujours effrayé, en fait, de la sexualité en général, ou en tout cas, vraiment, les relations romantiques, ou voilà. Enfin, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu... des plans cul ou quoi, enfin, ça m'a toujours un peu freinée, et j'ai jamais placé ça au centre de ma vie intime. Mais en tout cas, de savoir et d'avoir cette sensation de plaire, d'être désirée, tout ça, je pense que j'en ai vraiment eu besoin dans ma construction, et que ça m'a permis de valider plein de choses, et que ça a été une période, et que maintenant j'ai plus besoin de ça, très clairement, et que c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire aussi, de pourquoi je cherche les regards de ces gens, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'ai envie de faire partie d'un tout, quoi. Et en fait, à le déconstruire après, c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui sont encore en recherche de ça, et il y en aura toujours, mais on n'est pas tous égaux par rapport au désir normé qu'on a, dans le sens où certes, dans le milieu queer, les cartes sont rebattues au niveau des attirances physiques, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout bonnes dans le milieu hétéro et qui, tout d'un coup, vont être très charmantes et séduire de manière vraiment incroyable dans le milieu queer sur d'autres critères que le milieu hétéro. Mais ce n'est pas non plus totalement rebattu parce qu'il y a encore des énormes biais sur la minceur, la blanchité, le validisme. C'est tellement dur de déconstruire ses désirs et ses attirances. Et très clairement, moi, je suis encore là-dedans parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de chercher chez l'autre ce qu'on veut être. Et ça, je pense qu'on est beaucoup être dans ce cas-là. En fait, moi, si j'ai été attirée par les meufs androgynes ou les mecs trans très vite, à m'en demander, même si j'étais pas fétichiste, de mecs trans, quoi. Je vais dire, mais c'est bizarre quand même. En fait, à partir du moment où il y a une meuf androgyne ou une personne, enfin, à partir du moment où je vois une personne androgyne, je pense que c'est une meuf, mais qui me dit qu'elle est un mec trans, que mon attirance soit décuplée fois 1000, c'est très bizarre, c'est très dangereux d'avoir cette réflexion-là. C'est très fétichiste, mais au final, il y a un aboutissement.
Oui, hors contexte, ça semble fétichiste, oui. Et puis finalement, c'est relativement classique dans les débuts de transition.
Oui, 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 très clairement. Donc maintenant, je l'explique totalement. Mais je pense qu'il y a encore ce truc-là très ancré du T4T, du Trans for Trans, de chez moi, d'être avec des gens qui me ressemblent, parce que je pense que j'ai pas déconstruit ces trucs-là d'attirance et d'envie d'être avec... d'envie de me trouver, quoi. Mmh. Voilà.
Coucou, c'est Jenna de 2023. Je suis en train de faire le montage. Entre-temps, Chris a fait son coming out de mec trans, donc il faut mesurer la pertinence de ce qu'on va échanger à l'aune de cette révélation depuis. Est-ce qu'on essaye de faire un lien entre le fait que ta révélation, ta meilleure représentation trans, finalement, c'était Chris, c'est une personne cis,
oui.
Et tu te retrouves après ça, du coup, à essayer de séduire les lesbiennes. Mmh. Alors que, enfin, moi, je projette et j'étais dans des couples gays, par exemple. Après ma transition, l'idée d'essayer de séduire un mec gay m'horrifiait. Mmh. Parce que ça voulait dire que j'étais pas identifiée correctement. Mmh. Que je séduisais plus les bonnes personnes. Du coup, pour toi, comment tu réconcilies ça ? Et est-ce que ton orientation a changé ?
Alors, moi, le truc, c'est que je me suis jamais dit lesbienne, pour le coup. Et je le dirai jamais, parce que moi, je veux pas rentrer dans les débats de qui est lesbienne, qui l'est pas, vraiment. Parce que je me sens pas concernée, et c'est une question philo, et je suis ravie d'en débattre quand les gens ont un peu d'arguments réfléchis, etc. Mais si c'est juste pour parler de ressenti, moi, je veux pas remettre en question ça chez les gens, et très clairement, je m'en fiche. Mais du coup, derrière ce mot-là, il y a aussi toute la culture. Il n'y a pas que l'orientation sexuelle en soi. Et je pense que ça, c'est un truc aussi que les hétéros ne comprennent pas forcément, mais que toute minorité doit se construire une contre-culture. Et que la culture Gwyn, elle est très riche, très dense, comme la culture PD. Et sauf que moi, celle d'où je viens, c'est clairement la culture PD. Et mes amis, ça a toujours été les PD. Et moi, la culture Gwyn, je l'ai découvert très tard, et cette culture-là m'a toujours fait très peur. Des codes que j'ai jamais compris, des références, des trucs comme ça, vraiment. Tu vois, The L-World, moi, j'ai jamais vu, mais parce qu'il n'y avait pas ça chez moi, là, en Vendée, quoi. Je vois même pas à quel moment j'aurais eu la connaissance de cette série, vraiment. Et pourtant, on en parle comme si c'était
la Bible.
La création ultime de Dieu, quoi. Mais moi, je veux bien, hein, mais vraiment, j'ai jamais eu accès. Et du coup, là, moi, c'est une culture auquel je m'identifie pas et que je respecte, mais mille fois. Moi, j'adore les lesbiennes, il n'y a aucun souci. Mais du coup, en fait, mon orientation, elle a switché. Elle a toujours été pour les personnes androgynes, je pense, parce qu'il y a toujours cette attirance-là. Et juste, elle s'est ouverte, je pense. Maintenant, ça me semblerait compliqué de relationner avec des mecs cis, parce que j'en connais plus. Enfin, enfin, je vois pas qui voudrait, en fait. C'est plutôt ça le truc. Moi, je suis pas contre, mais faut trouver, quoi. Et du coup, comme je cherche pas activement ça, comme je suis plus dans les lieux de rencontre, ou même sur les applis, ou genre, j'en ai pas dans mon entourage, je vois pas comment ça pourrait arriver, mais c'est pas une porte que je me ferme, en tout cas. Enfin, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un bien, quoi.
Il y en a, il y en a.
Il y en a. Mais en tout cas, ce serait forcément... Enfin, voilà. Pour moi, c'est même plus un sujet, parce que je me dis, oui, ça pourrait arriver, mais bon, bref, à quoi bon. Mais c'est plutôt d'ouvrir, en fait, ce champ-là à des meufs et à des personnes trans. En fait, c'est pour ça, en fait, que moi, je trouve que le terme pansexuel, il y a plein de gens qui détestent, qui ne comprennent pas. Okay. Mais moi, en fait, ça m'a grave aidée, en fait. Plus que bi, parce que pour moi, ça n'a jamais été un truc, en fait. Je sais pas, je trouve que le terme pan est plus ouvert sur ça. Et enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aussi, bi ou pan, parce que, pareil, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, en tout cas, moi, à un moment, je me suis dit pan. Maintenant, je dis plus rien parce qu'en fait, parce que moi, je trouve que ça devient très obsolète à partir du moment où tu es trans, vu que c'est des catégories qui sont créées pour les personnes cis par les personnes cis. Enfin, je vois pas comment on peut s'en sortir là-dessus, quoi. Et puis surtout, ça dépend aussi de la posture qu'on a. Mais moi, en plus, comme je fais pas de transition médicale, je suis pas identifiée comme homme d'un premier abord, et c'est que dans les pronoms que ça joue quand on me les demande. Moi, je brûle les cartes de partout, donc à partir de ce moment-là, je vois pas comment je peux me mettre dans une case, ça marchera jamais. Et puis surtout, moi, ça m'a... Enfin, pareil, les filles hétéros, pourquoi pas, mais je vois pas comment ça pourrait marcher non plus. Donc forcément, les personnes qui restent, c'est les personnes que je côtoie au quotidien, qui sont dans le milieu queer, donc ça reste des meufs queer, quoi. Du coup, c'est pas par défaut, mais disons, c'est ce qui est le plus...
logique.
C'est ce qui est le plus logique, voilà, ce qui est le plus rassurant et safe au final. Donc voilà.
T'as mentionné que tu ne souhaitais pas faire de transition médicale.
Ouais.
Est-ce que c'est pour l'instant, tu gardes ça pour plus tard, ou c'est une décision...
Alors, je pense déjà, moi, en premier lieu, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Je sais pas, devoir se piquer tout seul. Enfin, il y avait tout un truc autour de la T qui est vachement effrayant. En plus, moi, du coup, la première personne avec qui j'étais n'avait pas encore fait sa transition médicale. Et du coup, il y avait ce truc assez rassurant de se dire je pouvais être comme lui et que ça marchait quand même, en fait. Donc ça, c'était cool. Après, il y avait ce truc aussi, je pense, de pas... toujours par rapport au monde lesbien, de pas être trop en décalage non plus. Et ça, maintenant, je m'en fous très clairement. Et je trouve ça horrible, en fait, l'exclusion... des mecs trans qui ont un passing trop masculin, parce que du coup, voilà, c'est plus des lesbiennes, même s'ils l'ont été toute l'immense majorité de leur vie, ils doivent sortir. Enfin, je trouve ça terrible. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est je trouve que, en fait, et c'est pas un discours qu'on entend souvent, mais être afab, ça donne à certains moments certains privilèges. Alors oui, je vais l'expliquer parce que c'est très rare. Mais moi, en tout cas, je trouve que, par exemple, ne pas être identifié comme un mec dans le premier abord, par rapport à la police, par exemple, par rapport, je sais pas, par rapport au travail, par rapport à plein de trucs, ne pas avoir cette espèce de trouble trop... cette espèce de trouble en transition ou post-transition, avoir un décalage avec ta carte d'identité, moi, ça m'a sécurisé dans mes emplois. C'est-à-dire que j'ai pas été obligée de me outer. Je sais pas, à certains moments, en manif, je passe beaucoup plus facilement.
C'est le fait de pas être perçue comme un danger.
Exactement. Et je pense que ça, ça m'a toujours aidée. Mais ne pas être perçue comme un danger, mais en même temps devenir neutre, c'est-à-dire que dans la rue, moi, je me fais plus harceler, genre jamais. Et du coup, il y a l'espèce de truc où moi, j'ai l'impression d'être très agile, en fait. Ce qui fait que, genre, je peux utiliser la carte meuf quand j'en ai besoin, et je peux avoir cette espèce de passing neutre, où on sait pas trop, mais on s'en fout un peu. Et du coup, le neutre, c'est égal au masculin. Et du coup, ce qui fait que dans l'espace public, où là où les femmes sont en danger, où les personnes sexisées, perçues comme femmes, sont très clairement en danger, moi, je le suis pas. Et en fait, moi, cette espèce d'agilité-là, j'y tiens parce que j'aurais détesté faire un coming out au travail, par exemple, si j'avais dû en faire, je ne l'ai pas fait à ma famille, tu vois, par exemple. Et si j'avais dû commencer une transition médicale, j'aurais dû le faire. Et voilà. Et je pense que ne pas faire de transition médicale, ça me laisse cette liberté de pouvoir performer un genre à un moment donné si j'en ai besoin. Et moi, ça m'a utile. Donc, mais c'est un privilège aussi. Hein. Faut se dire qu'en France, on peut se dire ça. Moi, j'ai plus besoin de ma famille. Je peux être indépendant. J'ai pas besoin de leur faire de coming out, etc. Maintenant que je bosse ici, il y a plein de choses qui font que je peux me permettre ça.
T'as la liberté de l'homme invisible.
Voilà, exactement. Et j'aime beaucoup ça, moi. Parce que en fait, ça dépend vraiment dans les magasins. On me dit soit il, enfin, on me dit soit bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, et la voix me trahit pas toujours aussi. Et ça, j'aime bien. Donc, moi, cette flexibilité, j'y tiens vraiment. Et c'est pour ça que j'encourage aussi certaines personnes qui pensent que, genre, prendre la thé, ça va être la solution. Ou mettre un binder, en fait, que vraiment, ça tout se réfléchit. Mais pour les mecs trans, parce que les meufs trans, c'est pas pareil. Et on n'est pas sur les mêmes enjeux de violence, et etc. Et ça, donc voilà, je dis vraiment pour les personnes transmasculines qu'il y a... Je pense qu'on peut avoir ce privilège de l'androgynité que les meufs trans n'ont jamais. Et
rarement, en tout cas.
Voilà. Et que ça, c'est un privilège que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup user et dont je ne me passerai pas pour le moment. Voilà.
Est-ce que tu as fait une transition administrative ?
Alors, j'ai changé de prénom. Ouais. Mais mon prénom, c'est un prénom de meuf. Enfin, c'est un prénom... En fait, moi, je déteste tellement mon deadname. Je l'ai toujours... J'ai un deadname hyper générationnel, vraiment très bateau. Je me dis, mais j'ai engueulé mes parents 1000 fois pour ce truc. Je me dis, c'est débile d'avoir choisi ça. Enfin, je sais pas... Réfléchissez, quoi. Enfin, ils me disent, ah non, on aimait bien. C'était un peu la mode. Je me dis, mais... N'importe quoi. Et bref, et du coup, voilà, c'est toujours un truc qui m'a vraiment agacée. Il y en avait tout le temps une autre dans mes classes. Dans toutes mes classes, il y en avait tout le temps une autre meuf qui s'appelait comme ça. Dans toutes mes équipes de sport. Enfin, je suis en mode, mais on peut pas être unique à un moment. Je sais pas, ça m'a toujours très perturbée de ne pas être la seule personne à avoir mon prénom. Ou en tout cas, que ce soit vraiment un prénom si commun. Genre, j'étais vraiment saoulée, que c'est vraiment... vraiment, le truc, ce soit juste une mode, quoi. Je dis, mais franchement, ça veut rien dire, ça me fatigue. Et le truc, c'est qu'en arrivant sur Paris, moi, j'avais un blog de mode. Et j'étais fan d'une blogueuse de mode qui s'appelle Garance Doré. Et du coup, elle qui avait un pseudo, en fait. C'est pas son prénom de naissance, qui avait pris un pseudo en tant que blogueuse. Parce qu'elle est illustratrice aussi. Et en fait, j'étais ultra fan de cette meuf. Et je m'étais dit, ah, mais moi aussi, je veux trop un nom de blogueuse, quoi. Et du coup, j'avais ce prénom Anne-Lick, qui est un prénom que j'aime beaucoup, qui a une forte histoire. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais m'appeler comme ça, et puis voilà. Et en fait, petit à petit, la transition s'est faite auprès de mes amis à Paris, à partir du moment où j'ai fini mes études. Et du coup, là, les gens, toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées m'appelaient comme ça, et petit à petit, en fait, l'ancien prénom a disparu. Ce qui fait que j'ai pas eu à changer de prénom du jour au lendemain. Ouais. Et que c'était beaucoup plus facile de changer ma carte, de changer mes papiers avec ce prénom-là, parce que, en fait, j'ai pas eu à dévoiler la transidentité. Et je pense que si, c'est moi, j'ai eu mes changements de papier très rapidement avec un dossier très light. Et c'est un vrai privilège aussi, encore une fois, en fait, de pas avoir eu à dévoiler la transidentité, et juste en disant, voilà, tout le monde m'appelle comme ça, sur mon contrat de travail, c'est comme ça, etc.
Et toutes les preuves et tout.
Et j'avais tout, ouais. Et du coup, en plus, donc c'est un prénom qui est pas, c'est un prénom qui est pas français, c'est un prénom allemand. Je sais pas s'il faut que je raconte d'où ça vient.
Seulement si tu veux.
En fait, moi aussi je raconte parce que j'aime.
Si t'en es fière, vas-y.
En fait, moi j'ai mon grand-père paternel, donc vraiment pas mon arrière-grand-père, mon grand-père, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui était résistant, parce que moi j'ai un père qui est plus âgé, donc forcément le saut de génération est plus important. Donc qui était résistant pendant la guerre, et du coup voilà, qui a une histoire... assez incroyable, qui a survécu à de nombreuses choses, etc., qui a fui en Espagne, qui est allé en Algérie, qui est rentré dans l'armée française à 17 ans, enfin, voilà, qui a vraiment une histoire assez, assez courageuse, enfin, même très courageuse, qui a remonté, qui a fait le débarquement de Provence, qui est passé en Allemagne, etc., qui a risqué sa vie 1000 fois, et du coup, qui a libéré les camps de concentration, dont celui de Bergen-Belsen, donc le camp de Anne Frank, et celui d'Achau, comme on dit. Et alors, l'histoire que j'aime bien raconter, c'est que dans le film Shutter Island de Scorsese, je sais plus, il y a le DiCaprio qui joue donc un soldat américain, enfin un ancien soldat américain, qui arrivait au camp de Dachau, donc en premier, a vu l'horreur du camp de concentration et ce bataillon américain a commis un crime de guerre en tuant tous les nazis sur place. C'est-à-dire en pétant un câble et en tuant tout le personnel nazi de ce camp, alors que normalement tu dois les arrêter, etc. Donc c'est un crime de guerre. Et moi, mon grand-père, il est arrivé le lendemain de cette histoire-là et donc il a dû arrêter les Américains. Donc il y a toute cette histoire-là que moi j'ai appris très très jeune. On a ça dans la famille, on a ce poids-là, donc de la résistance vraiment, des camps de concentration, etc. Même ma grand-mère, qui elle était plus jeune, elle avait 10 ans de moins, qui elle, pareil, avait son père qui était résistant, qui sont revenus quand ils sont. Qui étaient à Bordeaux, qui ont vu les trains de déportés arriver, avec les gens qui revenaient maigres à faire peur, avec juste leur pied amarré. Enfin, que ça, c'est des trucs, des images qui ont vraiment hanté les gens de ma famille. Et du coup, moi, j'ai un lien très très fort à la déportation. Et du coup, quand j'étais enfant, mais c'était vraiment un truc qui m'obsédait. C'est-à-dire, c'était très bizarre pour un enfant si jeune, tout ça, de lire plein de choses sur la Shoah, sur les camps de concentration, etc. Et donc, très naturellement, évidemment, j'ai lu le journal d'Anne Frank, très jeune, je sais pas, 8-9 ans. Et dedans, elle a une amie qui s'appelle Annie. Et Annie Goslar, donc, qui elle a survécu, alors qu'Anne Frank est décédée, et qui a écrit un livre qui s'appelle Mon amie Anne Frank. Donc moi, j'ai lu ces deux livres-là en parallèle. Et donc, du coup, dans Mon amie Anne Frank, elle raconte qu'elle a été arrêtée tout de suite au début de la guerre, contrairement à Anne Frank qui était donc cachée dans la fameuse annexe à Amsterdam avec toute sa famille, qui ont tenu 2 ans comme ça cachée. Donc Anne-Lee, elle s'est fait déporter tout de suite avec toute sa famille. Mais heureusement, son père avait trafiqué des papiers pour... Enfin, qui faisait que voilà, ils n'étaient pas avec les déportés habituels, ils étaient dans un camp spécial, le camp des familles à Bergen-Belsen, où là, les enfants n'étaient pas gazés tout de suite, où ils pouvaient garder leurs vêtements, leurs cheveux, et ils ne travaillaient pas. Donc voilà, c'était un peu petit privilège. Mais du coup, voilà, elle a vécu dans les camps de concentration pendant 3 ans, donc c'est vraiment très, 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 très long, avec toutes les privations, la faim, etc., avec sa petite sœur de 2 ans, donc vraiment, les deux s'en sont sortis, donc c'est une histoire incroyable. Et raconte ça, et en fait... À un moment, elle raconte dans son livre qu'il y a une des membres qui était cachée avec Anne Frank dans donc ce qu'on appelle l'annexe, l'appartement où ils étaient cachés, qui arrive à Bergen-Belsen, dont elle a tant parlé, et qui lui dit, mais tu sais, que Anne-Lee croise du coup dans le camp, et qui lui dit, mais tu sais que Anne Frank est là, enfin ton amie est là. Et du coup, les deux amies arrivent à se coordonner pour organiser une rencontre dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, à travers un grillage, donc sans se voir, pour se parler, alors qu'elles ne sont pas vues depuis 3 ans. Et donc Annelie, qui était elle, du côté plus privilégié, a réussi à lui envoyer un colis de nourriture, etc. Et du coup, voilà, elles se sont reparlées une fois dans cette espèce d'horreur. Enfin, elles ont pu retrouver leur amitié et quelqu'un qu'on aime, en fait, tout simplement, dans toute cette terreur. Et du coup, Anne Frank est décédée peu après du typhus, du coup, dans le camp de Bergen-Belsen, où Annelie, elle a été libérée après. Et en fait, ce qui m'avait marqué ensuite en relisant juste après le journal d'Anne Frank, c'est que dans un de ses rêves, dans un des jours qu'elle raconte, je sais pas, en 1942-43, où elle est encore, où Anne Frank est planquée du coup avec sa famille, elle écrit un de ses rêves où elle dit « J'ai vu Anne-Lee en rêve, elle avait faim, elle avait froid ». Et moi, c'est cette espèce de connexion d'avoir su ce truc-là, mais ça m'avait totalement bouleversée quand j'étais enfant. Et du coup, ce prénom m'est resté très très fort, et avec une vraie connexion. Et je m'étais toujours dit que soit j'appellerais mes enfants comme ça, ou je sais pas, si j'écrivais un livre, je l'appellerais comme ça, et tout ça. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça sera moi, du coup. Voilà.
Oh.
Mmh. Ouais, grosse histoire. Mais du coup, c'est un prénom féminin, mais qui a tellement une histoire importante que moi, j'ai toujours voulu le garder. Et qui n'est pas handicapant, en fait, qui n'est pas un prénom marqué non plus. Enfin, qui reste assez neutre, en fait, et qui est unique, donc j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est le personnage sur lequel Anne Frank, enfin, dont Anne Frank est amoureuse et qui a été censuré dans la première édition papier?
Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas entendu parler de cette histoire.
Comme c'est la famille qui a publié le journal, ils ont dégagé toutes les parties qui indiquaient qu'Anne Frank était lesbienne. Je suis en train d'apprendre des trucs.
Oui, je vais trop les renseigner.
Il y a une bande dessinée qui est sortie il y a 2 ou 3 ans,
okay.
qui a recherché justement les parties censurées et qui restaurait les parties où Anne Frank parlait de cette amie qu'elle a envie de voir, avec qui elle a envie de dormir, les nuits qu'elles passent ensemble sagement, mais elle est terrorisée à côté. Enfin, t'as du contenu à découvrir, mais du coup, ça se trouve, c'est elle. Et j'ai plus.
Oh mon dieu, mais si c'est ça!
J'ai plus son prénom en tête.
Mon dieu, mais si c'est ça, mais c'est encore plus mind-blowing. Après, ben, j'ai recherché très vite.
Ok. Je me demande. J'ai deux moyens de retrouver cette info. La première, c'est genre si on tape Anne Frank sur mon compte Twitter, assez probablement. Et l'autre, c'est que je me souviens avoir pris des photos de cette bande dessinée dans une librairie. Et du coup, comme je me souviens dans quel quartier était la librairie.
Oh, incroyable.
C'était dans ce coin-là. Alors, je suis au regret de te dire que le crush d'Anne s'appelle Jacques. Okay. Ou Jackie, enfin, c'est sans eux. C'est une version néerlandaise, je suppose. Donc, c'est pas la même personne. Mais j'ai retrouvé les images et je te les ai envoyées par mail.
Ok, top.
C'était un. Un long aparté émouvant. On va reprendre. Est-ce que tu veux des enfants?
Je pense pas. En tout cas, je me vois pas du tout en portée, ça c'est sûr. Souvent, ça m'effraie. Vraiment déformer mon corps. Il y a plein de trucs qui me conviennent pas. Et je pense que je dis non par esprit de contestation ou voilà. Mais après, je pense que si je suis avec une partenaire qui veut absolument, je pourrais me laisser par amour, en fait, guider dans cette voie-là, je pense, de la parentalité, de construire un projet d'enfant avec quelqu'un. Là, dans l'absolu, seul, non. Je pense que ça dépendra vraiment de la personne. Voilà.
C'est quoi ta plus grande fierté personnelle ?
Alors, je pense que c'est de ne plus avoir peur de vieillir. Moi, quand j'ai tourné 20 ans, j'ai eu l'impression d'être. De devoir faire tout maintenant, en fait. J'avais une espèce d'énorme pression de pas savoir. De vouloir briller à tout prix, ou en tout cas de vouloir marquer les choses, etc. Et je me suis toujours dit, si je ne le fais pas jeune, ce sera moins bien, ou ce sera pas. J'aurais perdu trop de temps, etc. Et pour ça, j'avais vraiment 12 000 projets. J'avais tellement une représentation des vieux, en tout cas de vieillir avec mes parents. Enfin, je me disais, mais c'est des nazes, quoi. Je peux pas être comme eux, quoi. Enfin, leur vie est nulle, ça m'intéresse pas. Et je voyais ce que c'était les trentenaires hétéro-bobos à Paris. Et pareil, j'étais, mais quelle angoisse, quoi. Vraiment, quel enfer. Et du coup, je pense que c'est toujours cette espèce de représentation hétéronormée de vieillir, d'avoir 30, 40, 50 ans, qui étaient juste toutes les mêmes et toutes pas intéressantes pour moi, quoi. Enfin, tout ça pour ça, quoi. Et du coup, je pense qu'en fait, rencontrer des personnes queer plus âgées, ou en tout cas, lire, voir, entendre des parcours de vie où, en fait, tu fais toujours les mêmes trucs à 40 qu'à 20 ans, t'as des groupes d'amis hyper mixtes, t'as pas du tout... les mêmes contraintes et les mêmes enjeux, et tu te vois pas vieillir de la même manière. Enfin, ça, je l'ai beaucoup lu chez les hommes gays, notamment, en fait, où en fait, le temps se distord vraiment, quoi. T'as une espèce de vie où, en fait, comme on t'a dit toute ta vie que t'aurais pas d'enfant, bah, du coup, t'as pas de projet familial, du coup, en fait, tu gagnes 20 ans, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc où je me suis dit, ah oui, ces schémas-là, ils existent aussi. Et ça m'a grave libérée, et aussi le fait d'avoir l'impression de grandir très vite, enfin, d'apprendre vraiment de mes erreurs, j'ai l'impression en tout cas, de me dire en fait c'est trop cool de vieillir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop cool d'avancer dans la vie et de pas subir ça en mode de subir le temps. Parce que moi je vois toujours une espèce de truc où tu freines, où on te tire par une corde et toi tu freines avec tes talons pour dire que le temps ne passe pas trop vite. Et en fait, moi je me dis que ça passe, quoi, mais et que c'est tant mieux, parce que du coup ça veut dire que j'avance et en fait on recule pas, quoi. Et en fait, il y a ce truc de voilà. Si j'avance, de toute façon, j'ai pas le choix d'avancer, donc autant que je profite de ça, quoi. Et que c'est cool, de toute façon, je serai jamais aussi jeune qu'à l'heure actuelle, donc c'est un fait.
T'as quel âge ?
23.
D'accord.
Et c'est trop cool, j'adore, mais je me dis à 30 ans, j'aurais appris tellement de trucs, vu comment j'en ai appris en 5 ans, de mes 18 à mes 23 ans, même avant. Je me dis, mais à 30 ans, mais je serais une mine de savoir, c'est sûr. Enfin, voilà, et du coup, je me dis, mais c'est génial de vieillir, quoi. Maintenant, j'ai plus du tout peur de ça, quoi. Voilà.
Est-ce que tu te considères militant ?
Alors, oui. Mais quand j'ai le temps, disons. Maintenant, je mets plus ça en priorité dans ma vie. Je pense que c'est un peu un truc de gens qui ont le temps, en fait, de se dire militant H24, ma vie, c'est le militantisme, etc. Écoutez, moi, je dois faire entrer de l'argent, tous les mois. Je dois... j'aime passer du temps chez moi à rien faire, avec mes amis, etc. Et tout le discours de l'intime et politique, oui... Mais on peut se laisser du time off aussi, quoi. Franchement, moi, il y a des moments où juste discuter cuisine avec quelqu'un pendant toute la soirée, mais ça me convient très, très bien. Toute ma vie ne tourne pas autour des sujets politiques, des discriminations, des oppressions, des privilèges des uns et des autres, parce que ça bouffe un temps de cerveau incroyable, une énergie monstre. Et du coup, moi, maintenant, c'est en fonction de mes ressources et de mes disponibilités. Et... je suis toujours très enthousiaste à l'idée de militer, et maintenant je le vois plus, voilà, comme un plaisir nécessaire, ou en tout cas une volonté qui vient vraiment de moi, d'organiser des trucs, etc., plutôt que comme une espèce de contrainte, parce que ma vie est nulle à cause de toutes les discriminations, quoi. Et après, je parle d'un point de vue situé, bien sûr. Mais quand l'injonction à être le plus militant possible, le plus déconstruit possible, bon voilà, moi il a fait son chemin chez moi. Et surtout, moi je vois en fait ce que c'est. J'ai encore un compte Instagram Shadow où juste je suis des blogueuses, je sais pas, des restaurants, enfin vraiment des trucs très lifestyle, comme on dit, des trucs de déco. Et à chaque fois qu'il y a une espèce de shitstorm dans le milieu militant, quelqu'un dit un truc, il y a eu un call-out, il y a un truc inadmissible, problématique qui s'est passé. Moi, je me rends sur cet autre compte-là et je me dis, mais en fait, la vie se déroule quoi qu'il arrive chez les autres. Vraiment, ça, nous, ce qui nous touche, ce qui nous blesse, ce qui nous rend en colère, mais il y a des gens, mais ça leur passe, mais tellement au-dessus. Moi, je prends hier, c'était la journée pour la visibilité transgenre, mais il n'y a que nous qui en parlons. Enfin, tu vois, très clairement, je veux dire, quand tu vas sur les autres comptes des gens hétéro lambda, mais rien à foutre. Donc, voilà, je me dis, moi, j'en fais toujours plus que... En tout cas, j'ai pas ce truc-là de la compétition de qui sera le plus militant, le plus déconstruit. Je me dis, moi, je fais avec ce que je peux, avec ce que j'ai, etc. Il faut aussi que les gens s'éduquent par eux-mêmes, etc. Donc, je sais pas, moi, je me dis, il y a toujours Darmanin, quoi. Donc... Mais ce sera jamais pire que Darmanin, donc on a notre marge, quoi.
Ah, tu mets la barre un peu bas, ouais, mais d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut trouver un équilibre. De toute façon, on ne peut pas tenir à long terme en consacrant toutes ses ressources, toute son énergie à un seul but, de toute façon. Est-ce que tu as un parcours militant à raconter ?
En ce moment, je suis dans un groupe militant, celui qui a organisé le rassemblement pour la PMA pour tous en février dernier. Mm-hmm. C'était vraiment vraiment incroyable en fait d'organiser cet événement, de laisser des prises de parole, la tienne notamment qui était sublime. Mais ça, c'était la première fois que j'étais dans un truc d'organisation d'événements. Parce que j'ai une asso à côté qui s'appelle Pia Pia Media où on fait du partage de connaissances, des articles sur la culture et l'histoire queer. Donc c'est une forme de militantisme que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas dans l'organisation politique. Enfin, c'est de la politique, bien sûr, mais disons, on n'est pas sur de l'actualité, du sujet de société, du débat. Du coup, là, c'était un peu une première fois, et j'ai adoré, mais c'était tellement énergivore. On était tous et toutes totalement mais crevés le lendemain de ce dimanche-là, mais moi j'ai dormi toute la journée, quoi. C'était hyper fatigant. Donc moi j'ai adoré cet événement. Je me dis que c'est génial de participer à ça, mais en faire le centre de sa vie, de se dire il faut faire des actions, des manifs, des rassemblements, c'est impossible pour une seule personne à tenir, enfin un engagement qui est épuisant. Et donc voilà, il y a ce truc-là, et du coup il y a donc Pia Pia Asso Media, donc qui a un média autour de la culture et l'histoire queer, mais qui est aussi une association qui organise des sorties culturelles, ciné, théâtre et expo, pour les personnes queer précaires. Donc ça, c'est vraiment un peu les deux activités qu'on a, à la fois le média, la transmission de connaissances, avec un regard queer sur l'histoire et sur la culture, notre société actuelle, et l'organisation d'événements, enfin en tout cas de rencontres autour de la culture. Et ça, c'est vraiment hyper important comme projet, j'en suis vraiment très très fière, parce que c'est un projet qui répond à plusieurs attentes et plusieurs besoins identifiés dans la communauté queer, qui sont notamment le fait de trouver un milieu entre les espaces associatifs, militants, ou justement ce que je disais, où il faut être vraiment vénère, faire de la politique pure, être au courant de ce qui se passe, etc. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et il peut y avoir des sentiments d'illégitimité par rapport à ça, de ne pas trouver sa place, etc. Et à côté, tu as les espaces de fêtes, les bars, les teufs, les clubs, etc., où tout est alcoolisé, drogué, et ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Et en fait, entre les deux, il manque très, très cruellement un espace de non-mixité, ou en tout cas des espaces de safe, le plus safe possible pour les personnes queer, calmes, pour faire des activités, juste que ce soit de la cuisine. Je pense à Queer Cook qui organise des événements de cuisine. Nous, on fait des sorties culturelles, il y a la Constellation pour boire un café, etc. Et ça, voilà, il y a des petites initiatives. Il y a les équipes de sport aussi, ça c'est génial de pouvoir faire du sport, que ce soit les dégommeuses au foot ou les sorties piscines qu'organisait Acceptesté. Enfin, c'est vraiment, je pense, des projets qui sont hyper intéressants à porter, parce qu'on n'est pas là pour parler politique, on n'est pas là pour parler d'orientation, d'identité de genre, etc. On est là juste pour être ensemble, pour être entre nous, parce qu'on a besoin de cette sécurité-là. Mais on fait un truc qui nous fait plaisir, en fait. Et ça, c'est hyper important de ne pas se sentir jugé. Et je pense aussi à Onologuin, par exemple, qui fait ses ateliers de dégustation de vin. Où il y a ce truc, oui, en fait, quand tu fais un atelier de dégustation de vin avec 4-6 mecs autour de toi et 2 meufs hétéros qui vont être « j'adore ce vin, c'est vraiment un vin de fille », tout ça, c'est bon, quoi. Donc je pense qu'il y a, ce besoin de non-mixité qui est un sujet très brûlant en ce moment, mais qu'on est légitime à demander. Et nous, on est ravis d'y répondre sur le sujet, en plus de la culture, qui peut être, qui vient s'ajouter à l'enjeu de classe sociale aussi, d'accès pour les personnes précaires. Donc voilà, ça c'est vraiment un super projet pour la partie donc association. Et pour la partie média, il y a aussi tout l'enjeu de, quand on fait des articles sur l'histoire notamment, d'aller voir en fait ce que c'est l'histoire qu'on nous enseigne, qu'est-ce qui est passé à la trappe, qu'est-ce qui n'est jamais raconté, quelles analyses on fait, quelles interprétations on fait, puisque l'histoire, c'est de la matière vivante, c'est des archives, c'est des sources, c'est des témoignages, c'est des preuves, et c'est des choses qu'on analyse, et qui les analyse, ce sont toujours les mêmes personnes. Donc c'est toujours un regard cis-hétérocentré, blanc, masculin, et nous, on essaie de décentrer ça. Notamment, ce qui est un truc qui est intéressant, c'est de parler d'homosexualité ou de transidentité de manière anachronique. Et ça, c'est génial, parce que le regard d'historien hétéro va dire « Mais non, il n'était pas gay, ça n'existait pas à l'époque, c'était pas comme ça que ça se voyait. » Mais ça, c'est l'analyse qu'on fait de nos jours. Et en fait, quand on parle dans la mythologie grecque de toutes les histoires des dieux avec des éphèbes, etc., on a le droit d'avoir cet héritage-là et de le revendiquer, par exemple. C'est un peu problématique, ça, mais d'avoir l'île de Sappho, par exemple, les poètes, enfin les poèmes de Sappho, etc. On a le droit d'avoir ce fil-là dans l'histoire, de tracer cette route-là. Et c'est hyper important de l'analyser avec un regard décentré, queer. Et nous, c'est tout le travail qu'on fait, et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Donc voilà.
Je suis captive et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce que vous faites là-dessus.
Avec plaisir.
Tu me passeras des liens, on les mettra dans les notes, j'irai lire ça et tout ça. Mais ça nous fait une bonne transition avec le thème de la constellation.
Ouais.
Parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast ailleurs qu'à distance. Donc on est là dans la constellation. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus en détail le projet ?
Oui. Du coup, la constellation, c'est un salon de thé / tiers-lieu culturel dans le centre de Paris. On est dans le 2e arrondissement, qui a été pensé par Laureline Lévy, donc qui est une, une meuf queer qui a bossé pendant longtemps dans la pub et dans la mode et qui a toujours perçu ce même truc que dont je viens de parler sur l'idée d'avoir des espaces calmes, sans alcool, pour les personnes queer le plus safe possible, comme il en existe aux États-Unis. Mais c'est un projet qui est, enfin, c'est des projets qui n'existent pas en France. Et pourtant, il y a un vrai besoin de la communauté. Donc, qui a monté ce projet à partir, je crois, c'est 2018, qui a d'abord organisé des soirées qui s'appelaient Calm pour les personnes queer, justement, qui étaient des soirées en petit comité, sans alcool, où vraiment tout était sur juste la discussion et juste rencontrer des gens hors contexte de toujours de ce truc de drague ou de sexualisation. Là, c'était vraiment juste en toute tranquillité. Donc ça a plutôt très bien marché. Et après, du coup, il y a eu l'idée donc, d'avoir ce lieu permanent qui a ouvert donc, malheureusement en 2020, donc vraiment, enfin, qui devait ouvrir plus tôt, qui a été retardé, ça a été compliqué pour trouver des financements, etc. Donc qui a quand même persisté et ouvert en juillet 2020, et qui depuis, donc là, a subi évidemment les grès, les ouvertures, les fermetures imposées par le gouvernement à cause de la pandémie. Mais dans sa volonté, donc on entend l'idée d'avoir un endroit tranquille pour boire un thé, pour avoir une pâtisserie, pour se poser, pour faire tout ce qu'on peut faire dans ce type de lieu, pouvoir travailler, pouvoir voir des amis, se rencontrer. Et dans le tiers-lieu culturel, il y a aussi l'envie d'avoir une programmation, d'avoir des activités d'organiser. L'espace est assez grand, il y a deux salles en haut, une salle en bas. Donc le champ est vraiment libre pour tout ce qui est de l'ordre des projets associatifs, culturels, des expos photos, des ateliers de broderie, des séances de modèles vivants. Il y a vraiment plein de choses qui ont pu se dérouler en très peu de temps. Et c'est vraiment une ambition du lieu d'avoir non seulement un endroit pour se poser, mais aussi un endroit vivant de création de liens pour la communauté autour de valeurs culturelles, de artistiques, voilà, d'activités comme ça qu'on fait ensemble. Mais je pense voilà, que le projet de vivre ensemble est hyper intéressant et surtout d'être le plus safe possible. Alors, on peut jamais se dire safe parce que nous, ce qu'on considère comme safe ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais il y a vraiment la volonté d'être un lieu refuge ou en tout cas un lieu où il fait bon être quand on est une personne queer. Donc voilà.
T'en parles bien. Vous avez encore des activités en ce moment ?
Alors du coup, en ce moment, on va bientôt lancer la carte à emporter parce que on a refait une nouvelle carte de food. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment elle va être reçue, même si c'est un petit lancement, on n'ouvre pas. Enfin voilà, on fait de la vente à emporter. Et donc on peut pas recevoir de public, bien sûr. Mais ce qu'on fait en off, c'est qu'on reçoit des associations qui nous demandent, on leur laisse les clés pour qu'il y ait quand même un espace physique pour accueillir des réunions, voire des activités associatives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur aussi de proposer ça gratuitement. Du coup, vraiment, on se fait pas d'argent là-dessus, on rentabilise pas du tout l'espace, mais ça nous semble important de garder ces liens-là dans la communauté, notamment pour les associations, où c'est de plus en plus compliqué d'exercer en fait tes activités, notamment pour les assos qui se tournent vers des publics précaires ou fragilisés par la pandémie. Alors, on accueille notamment Accept Testé pour certaines réunions. On a l'équipe des coloreuses qui vient faire des ateliers. Enfin voilà, il y a plein de toute cette espèce de maillage collectif associatif qui sait qu'il y a ici un lieu physique, un espace au chaud avec l'électricité pour se retrouver. Et pour nous, c'est vraiment important d'offrir cet espace-là.
Très bien. Il me semble que vous avez envisagé à un moment la possibilité de faire aussi un travail éducatif auprès des entreprises.
Oui, alors ça aussi, c'est une formation qu'on vient de lancer, qui est une formation donc, à destination des équipes RH, donc ressources humaines ou RSE. Donc la RSE en entreprise, donc ça touche plutôt les grosses entreprises, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça implique la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc tout le travail autour de ses produits, de ses fournisseurs, de ses bureaux, de comment on peut être le plus éco-responsable possible. Et il y a tout le travail aussi sociétal, de comment on traite ses employés, comment on interagit, pareil, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses salariés, avec tous ses prestataires, qui est aussi très important. Donc les grands groupes de plus de 500 salariés ont l'obligation d'écrire un rapport RSE par an, pour lister toutes les actions qu'elles ont mises en place au sein de leur organisation au niveau donc, voilà, environnemental et social. Donc, c'est souvent très bullshit. Enfin, il y a notamment la partie sociale. Je pense que l'environnement, c'est un peu plus... Enfin, la partie écologie est beaucoup plus concrète à mettre en place, mais la partie sociale, de moi, j'en ai, du coup, pour créer cette formation-là, j'en ai lu des tonnes et des tonnes, et c'est toujours l'égalité homme-femme ou l'accès pour les handicapés. Voilà, donc c'est toujours très mal fait l'un comme l'autre, mais c'est toujours, genre, on a fait appel à telle société, enfin, tel prestataire, on a mis en place tel chiffre, etc. Mais toujours, il n'y a rien pour les personnes queer, il n'y a rien pour les personnes racisées, par exemple, parce que c'est des sujets dont on ne parle pas en France, évidemment, contrairement aux États-Unis, où au sein des entreprises, au sein des organisations, il y a vraiment des associations, des circuits, des networks, enfin, des réseaux qui sont mis en place au sein de grands groupes avec des référents. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus organisé et d'institutionnalisé. On peut critiquer ça, mais en tout cas, en France, il n'y a pas ça du tout dans les entreprises. Enfin, ça existe un petit peu, mais ça reste assez anecdotique, je dirais. Donc nous, l'ambition, c'est de pouvoir proposer une formation qui soit très concrète. Vraiment, zéro bullshit, pas juste dire « c'est pas bien de discriminer les personnes trans », ça, on est tous d'accord, a priori, mais de comment on fait, en fait, concrètement, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de la vie en entreprise, et que ce soit après au niveau de la communication qu'on fait, comment, concrètement, on intègre les personnes queer au mieux. Et en fait, cet enjeu-là, c'est pas juste intégrer pour intégrer. C'est aussi montrer que d'avoir des équipes diverses, d'avoir des équipes... où tout le monde se sent à l'aise, c'est un vrai plus pour l'entreprise en termes de productivité, etc. Donc certes, on est dans une logique capitaliste, ça on est d'accord, mais en attendant, il y a des personnes trans qui n'ont pas d'emploi, il y a des personnes queer, enfin... Nous, la formation est très centrée sur les personnes trans, vu que c'est moi qui l'ai fait, et... mais c'est aussi parce que c'est un peu toujours les oubliés de, quand on dit les personnes queer, etc. Enfin, il y a quand même des biais spécifiques à la transphobie au sein du travail. Donc voilà, moi je voulais vraiment mettre l'accent sur ça dans la formation. Et c'est de en fait voir concrètement qu'on a tous et tous, surtout, enfin partout, des espèces de biais de discrimination, et autant, d'autant plus quand on venait dans des milieux très peu mélangés. On est dans des entreprises très masculines, très blanches, forcément on recrute des personnes qui nous ressemblent. Et ça c'est tout le temps, enfin c'est partout. Et c'est de dire, nous, d'arriver en disant, avoir des personnes plus diverses au sein de votre entreprise, c'est pas seulement pour avoir votre badge de gens cool, mais c'est aussi pour vous, parce que c'est intéressant. Et par exemple, Laureline, elle a toujours cet exemple qui est hyper intéressant, qu'à l'époque où elle travaillait dans une très grosse marque de cosmétiques, où en fait, ils ont été obligés d'aller chercher la stagiaire noire qui était dans l'autre bâtiment pour tester les produits de peau pour les personnes noires, parce qu'il n'y avait personne d'autre dans l'équipe maquillage, dans l'équipe beauté, dans toute cette marque-là, autre qu'une stagiaire qui a la peau noire, pour tester les produits, quoi. Donc là, c'est juste révélateur de à quel point, en fait, il y a zéro mixité au sein de ces grands groupes. Donc voilà, ça c'est vraiment la formation qu'on a mis en place, avec des tips de quand vous recevez un CV par exemple, que des trucs très concrets, hein, mais qu'il y a une adresse, l'adresse mail, il y a un prénom masculin, mais que la personne elle signe avec un prénom féminin, et dans son CV c'est un prénom féminin, etc. Ne pas se tromper, demander les pronoms. Quand il y a une personne où on ne sait pas, on la voit, on ne sait pas trop si on doit dire monsieur, madame, écoutez comment est ce genre, enfin, des trucs très simples mais appliqués à ces biais de recrutement où on va toujours au plus simple, on se dit cette personne a fait telle école, elle est blanche, elle est comme moi, elle connaît machin, hop, on prend elle, on va pas chercher à prendre quelqu'un d'autre qui aurait un profil un peu plus différent, qui viendrait pas forcément de ce milieu là, qui est totalement compétent. Enfin, on sait très bien que maintenant ça joue plus sur les compétences, enfin, qu'il y a mille autres biais qui rentrent en jeu. Et après, il y a le recrutement, bien sûr, mais il y a aussi toute la vie en entreprise, de faire en sorte que, oui, c'est bien de recruter des personnes queer, mais faut-il encore que l'esprit et que les collègues soient...
Visibles.
Soient visibles, parce que franchement, les histoires de discrimination en entreprise, mais on a tous et toutes à en raconter, mais des trucs à l'appel, quoi. et de se dire, enfin, je pense qu'il y a, encore une fois, on retourne dans ces trucs de placard où je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas out au travail, mais juste par flemme, quoi. Même, soit, bon, il y a des situations, il y a des endroits qui sont vraiment très dangereux ou très toxiques où on se dit vraiment c'est juste une question de survie. Mais moi, je me souviens dans mes entreprises d'avant, c'était juste la grosse flemme, genre vraiment de leur raconter ma life, mais je veux pas de jugement, je veux pas qu'on pose des questions, je veux pas. Et c'est terrible les barrières qu'on se met soi-même sur ça. Et ça, c'est des vrais, il y a des vrais chiffres, hein. il y a des stats de personnes LGBT qui racontent pas avec qui elles ont passé leur week-end, qui se taisent, et on se dit, ah ben machin, il est un peu fermé, il raconte pas trop, il est pas très intégré, etc. Donc nous, on veut vraiment casser ces biais-là auprès de gros employeurs, vraiment, et pas juste être, juste avoir le badge, mais juste avoir vraiment des trucs hyper concrets. Donc ça, c'est vraiment aussi un point qu'on est en train de développer. Donc là, la formation est prête. Là, on essaie de démarcher et d'avoir un peu de monde. Et on sait que c'est un produit qui intéresse les entreprises. Donc là, il faut toucher les bonnes personnes. Et c'est vrai que c'est compliqué en cette période de dire aux gens de mettre de l'argent dans de la formation, quoi. Mais le truc, c'est qu'on sait que c'est le futur, quoi. Et on sait que ça prend de plus en plus de place et que c'est des questions qui deviennent inévitables maintenant, même en France, quoi. Même si... on sait que derrière, le backlash est énorme sur notamment les transidentités, sur le fait que ça n'existe pas, qu'on est des fous, etc. Ça, on sait. Mais c'est aussi parce que derrière, il y a une montée de visibilité qui est de plus en plus importante. Et du coup, les entreprises ont tout intérêt à se saisir de ce truc-là. Et non pas juste pour faire du pinkwashing, mais vraiment repenser leur vision de la société. Et parce que c'est pas seulement aussi pour intégrer les personnes queer, mais c'est aussi pour tout le monde, pour les alliés aussi. Je pense que quelqu'un qui a dans son entourage... dont la sœur est trans ou dont la mère a fait son coming out lesbien, tout ça, se dire que tu vas bosser dans un endroit où tu vas pas entendre des conneries homophobes ou transphobes toute la journée, même ça en fait c'est bien. Et je pense que on devient aussi militant, hein. Enfin, je veux dire les rôles des alliés, des familles, des proches, et pas du tout à négliger dans nos luttes. Et je pense aussi c'est hyper important de faire en sorte qu'il y ait des safe places ou des endroits les plus sereins possibles pour tout le monde et pas que pour les personnes queer, parce que derrière il y a la misogynie, parce que derrière il y a le racisme, il y a plein d'autres biais qu'on peut combattre en même temps, quoi.
Vous avez des touches ?
Ouais, on commence à avoir deux trois contacts. Voilà, ça marche aussi beaucoup par le réseau. On s'est pas lancé dans un démarchage de fou, mais on sait que ça intéresse, quoi. Que les gens disent ah oui, j'ai entendu parler, j'ai vu un reportage. Oui, il y a ma sœur ou nanana. Et je pense que voilà, petit à petit, ça fait son chemin, quoi.
Très bien. Alors, comment on va accélérer ? Parce qu'on a fait déjà là une bonne heure et demie. On va passer à une partie self-care. Qui est-ce qui est autour de toi pour prendre soin de toi ? Est-ce que tu as un réseau de soutien ?
Ouais, moi, j'ai des super amis. Vraiment. Alors, je pense que moi, ce qui m'a toujours sauvée, c'est d'avoir un groupe d'amis très divers. C'est-à-dire que... il y avait des mecs pédés, il y avait une meuf trans, il y a des meufs bi, lesbiennes, etc. Ce qui fait que moi j'ai toujours eu un groupe d'amis très mixte. Et je pense que le fait d'avoir ce truc-là et de ne pas se renfermer dans un seul groupe d'amis, on est tous pareils au niveau queer, hein, j'entends, ça crée vachement de sentiments d'appartenance et en même temps d'être bien avec soi-même, quoi. Moi, j'ai toujours tenu vraiment à être dans ces groupes-là, avec toujours mes amis PD et des meufs, etc. Parce que je n'ai jamais voulu m'enfermer dans un groupe d'amis où on a tous la même tête et on veut tous choper les mêmes personnes. Enfin, il y a ce truc-là aussi d'être juste avec des gens pour être amis avec eux, et parce qu'on est devenus amis au dehors des luttes queer. Et ça aussi, j'y tiens beaucoup. Parce que nos centres d'intérêt, c'est pas la politique. Et ça, c'est top. Après, bien sûr, on a les mêmes opinions, parce que sinon, on serait pas amis, très clairement. Mais disons que nous, quand on se voit, on parle pas politique. Et ça, j'y tiens, mais vraiment, fois mille à ce groupe d'amis-là, où on peut... on se voit pour dîner, pour manger, pour aller en soirée, pour passer des après-midi, avoir des films, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très précieux d'avoir construit ces amitiés-là qui sont queer, en dehors des luttes queer. Vraiment, c'est un bel exercice et j'en suis très très fière.
Pour se faire du bien. Ouais. Et alors, comment on fait un casting comme ça, d'avoir plein de personnes différentes
Alors, ça s'est un peu fait... Il y a eu plein de choses qui sont passées. Je pense que c'est vraiment fait par hasard. Moi, j'ai d'abord eu mes deux meilleures amies qui étaient qui sont eux-mêmes meilleurs amis. Après, on a rencontré des gens au fur et à mesure. Et comme le... Je pense qu'on n'a jamais mis ces barrières à l'entrée de « faut être militant, faut être politisé, etc. », ça a toujours brassé vraiment plein de mondes très différents. Il y a des gens qui partent de Paris, qui reviennent, etc. Et c'est un groupe très large, en final. Mais comme, voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, si ce n'est d'être sympa, quoi. De bien s'entendre avec les autres. Et je pense que ça attire vraiment des profils très différents de gens. Ouais. Et ça, c'est vraiment top, ouais.
Comment est-ce que tu prends soin de toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir?
Moi, j'ai dépassé l'idée d'être productif. Je pense que j'étais dans une vie où je faisais mille trucs, j'étais en mode « faut que je fasse ça ». Et maintenant, j'accepte d'avoir des phases, mais des longues phases, hein, des 3 mois, 4 mois, où je suis un peu en mode « je subis ce qui m'arrive ». Genre, j'aime pas trop le taf que je fais en ce moment, avec mes potes ça va pas trop, là j'ai bof envie. Sans être dans une sensation de détresse ou de détresse psychologique, comme dire là, je suis en train de démarrer une dépression, ça, j'ai jamais vécu ça, heureusement, mais juste dans cette espèce de phase où tu te dis, c'est bof là, parce que je sais que ça passera. Et du coup, je me dire que c'est ok d'être down, mais pendant 3, 4, 5 mois, de ne pas avoir l'impression de perdre ce temps-là, de dire en fait, la conjecture actuelle fait que c'est nul, mais c'est pas ma faute. Enfin, disons, j'ai pas à me blâmer moi. Parce que en ce moment j'ai un taf nul, enfin j'ai fait ce que j'ai pu avec mes amis, ça va pas, mais bon bah voilà, j'ai fait. Enfin, j'ai dépassé ce truc-là de me dire si ça va pas, c'est ma faute, et sans rejeter la responsabilité sur les autres, mais juste accepter qu'il y a des moments où j'ai pas envie, enfin j'ai juste envie d'être dans mon lit et je procrastine à mort et je bosse pas bien et je me dis mais tant pis, enfin moi je n'y arrive pas en tout cas, j'ai fait le deuil de ça, de bosser 5 jours par semaine. En faisant un 9h-17h, enfin, vraiment, j'ai fait le deuil de ce truc-là, que je n'arriverais pas à être efficace toute ma vie là-dessus, que ça ne me motive pas d'avoir ce rythme-là. Moi, j'adore avoir des rythmes où je suis à 3 mois où je suis à fond, je fais 12 000 trucs à la fois, et 5 mois où je me traîne un peu, où je devrais faire du sport, j'en fais pas trop, je cuisine un peu, enfin, je commande plein de trucs à emporter, alors que c'est mal de faire ça. Voilà, mais voilà, se laisser le temps d'être une merde, je trouve ça plutôt bien.
J'ai une question égoïste. Ton choix, ta révélation me semble particulièrement alléchante. Comment est-ce que tu fais pour subvenir à tes besoins pendant ce temps-là?
Financier, tu vas dire?
Par exemple.
Ouais, bah en fait, comme je disais, le fait d'avoir un taf nul, par exemple, mais j'ai quand même un taf, tu vois. Moi, j'aurais jamais le luxe de pas bosser. Parce que, en fait, moi, mes parents peuvent pas m'aider, j'ai 2 prêts bancaires à rembourser. Donc voilà, moi j'aurais jamais le luxe d'avoir 0 activité. Donc j'ai toujours eu des tafs de merde, plus ou moins. Mais par contre, moi j'ai toujours fait le minimum syndical. Et ça, ce qui fait que je me suis beaucoup fait virer. Genre vraiment, je me suis viré de tous mes jobs d'été, je pense, quasiment. Parce que j'ai toujours fait le minimum syndical. Parce que, en fait, moi je ne supporte pas cette espèce de truc d'être content pour les miettes que te donne le capitalisme, vraiment, et de supplier en entretien d'être pris et de dire que tu vas être super, tu vas être hyper motivé, alors que c'est un taf qui va te ruiner la santé, etc. J'ai toujours joué le jeu, mais par contre, je ne l'ai jamais fait, vraiment. Et parce que moi, jamais je me ruinerais pour un patron ou pour un truc comme ça. Et ce qui fait que, en fait, moi, je me suis très souvent virée. Mais par contre, je tiens longtemps et j'arrive vraiment à les douiller pendant 3, 4, 5 mois. L'autre fois, je suis allée jusqu'à 6 mois parce qu'ils m'ont renouvelé ma période d'essai, etc. Et à chaque fois, c'est eux qui me virent, mais moi, je pars jamais. Et du coup, je gèle les sous, mais vraiment, je fais ce qu'il faut pour tenir le plus longtemps possible, mais j'y crois pas. Et je pense que avoir cette lucidité-là de se dire que être content au travail, mais le travail sera jamais content de toi, c'est toujours ce qui m'a sauvé, je pense, de me dire de toute façon ce sera jamais trop pour moi, donc je fais ce qui marche et voilà, le bare minimum.
C'est une très jolie formule. Donc quand tu disais que t'as fait le deuil du fait d'être productif en permanence, ça laisse quand même un peu de temps pour un travail alimentaire. qui te permet de ne pas du tout être productif sur tes autres projets.
Oh, ouais, totalement.
Oui, d'accord, ok. Je comprends mieux.
Mais parce que j'ai un peu d'expérience, ce qui fait que je peux prétendre à des postes de cadre. Tu vois, moi, la dernière fois, j'étais cadre dans la communication. Et en fait, quand t'es cadre, mais tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fous rien si tu veux. Et moi, je foutais rien, vraiment. Juste, t'es là aux réunions Zoom, tu fais ce qu'on attend de toi, mais personne contrôle tes horaires. Parce que t'as pas d'horaire quand t'es cadre, quand t'es un peu chef, quoi. Et en fait, maintenant, je sais que le fait d'avoir fait autant d'expériences de merde me permet maintenant d'accéder à des expériences qui sont un peu moins de la merde, où j'ai pas de contraintes horaires. Et du coup, je fais le minimum syndical et ça passe jusqu'à un certain temps. Évidemment, ça peut pas passer, on peut pas feinter toute sa vie, mais jusqu'à un certain point, ça marche et moi, j'en suis toujours très content.
Ok, il faut pas que ma boss écoute cet épisode. Est-ce que tu t'habilles quand tu es confinée?
Alors déjà, moi, je dors à poil, moi, tout le temps. Donc, en fait, le matin, je sors nue de mon lit, donc il faut que je m'habille. Donc, j'ai pas de pyjama. Mais par contre, j'ai un peignoir et je passe beaucoup de temps en peignoir. Donc, oui, il y a des jours où je mets pas de slip, je shift à poil sur mon peignoir. Et j'aime beaucoup. Mais en vérité, quand même, je m'habille. Mais après... Bah, puis pas non plus. De toute façon, j'ai pas de tenue incroyable, donc je pense que je suis à peu près sortable tout le temps. Donc.
Est-ce que tu te décris heureux, fier, fatigué, serein ou autre chose?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je suis globalement heureux parce que à l'heure actuelle, je peux pas faire mieux que ce que je fais. Donc, je trouve que ma vie est plutôt cool, je suis bien entourée. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, et ça, c'est cool. Moi, j'ai le truc des gens qui savent pas trop, tu vois, moi, j'ai trouvé ma voie, enfin, je sais où je vais. Et ça, c'est top. Je sais ce que je veux aussi, et ça, j'ai jamais eu trop de problèmes de confiance en moi, et je pense que ça m'a sauvé la vie, vraiment. Parce que moi, si j'avais pas eu l'orgueil, je pense que je me serais beaucoup trop fait piétiner dans ma vie, et c'est ça qui m'a sorti de plein de situations, de me dire... wake up, enfin vraiment, tu vaux mieux que ça, et je pense que ce pouvoir se le dire, et moi je me le suis dit dans beaucoup de situations de merde, je pense vraiment toutes les fois où je me suis fait humilier au travail, parce que vraiment le travail salarié mal payé, c'est une humiliation quotidienne, et tout le nombre de fois où j'ai vécu ça, de me dire que j'étais mieux qu'eux, parce que vraiment je me le suis dit, ça m'a vraiment sauvée, et je sais que c'est pas très cool de penser comme ça, de se dire meilleur que des gens, mais à des moments, vraiment, ça, si tu te le dis pas, en fait, tu sombres, quoi. Moi, je me suis retrouvée dans des bureaux où on me virait, on me disait que j'arriverais à rien, que vraiment, ouais, je servais à rien, que jamais je ferais des trucs cool dans ma vie, parce que je me donnais pas assez, qu'il fallait que je me donne à fond pour ces trucs-là, parce que si je voulais voir plus grand, plus grand, plus grand, moi, j'étais, mais en fait, je tant pis, je pars. Je ne vous mérite pas, très clairement. Donc, moi, j'ai toujours eu ce truc-là où j'ai réussi à me sortir de situation. Et du coup, je suis assez agile sur ça, de savoir me défendre. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis bien entourée maintenant et je suis stable dans ma vie. Et je sais comment gagner de l'argent et je sais faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. De pas me laisser, je ne me suis jamais laissée abattre sur trop de moments. Après, la situation actuelle, elle atteint quand même beaucoup. Et c'est pas tant personnel, mais plutôt collectif, de voir un peu le no future se dessiner. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Alors, pas qui m'angoisse, mais disons qui me questionne beaucoup, parce que moi, je sais pas à quoi me préparer, tu vois. Je sais pas, je sais pas s'il faut rentrer dans le délire collapsologie. Ouais, vraiment, et j'y pense et je me dis, mais en fait, moi j'aimerais bien savoir parce que s'il faut, moi je me prépare maintenant, il n'y a pas de problème. je me forme et tout ça. Et
je pense qu'il faut, mais voilà. Oui.
Mais par contre, est-ce qu'il faut continuer à vouloir croire en la politique? Bof, tu vois, mais en même temps, bon, bah, c'est tout ce qu'on a maintenant. Qu'en fait, sous quel angle attaquer et où placer ses croyances et où placer ses ressources? Genre, dans quoi il faut investir? Moi, alors, des questions très cons, mais tu vois, moi, maintenant, j'ai un petit peu d'épargne et je me dis, est-ce que faut placer son épargne, genre dans une assurance vie, par exemple, et parce que ça va être rentable dans 5 ans, ou est-ce qu'en fait, le système bancaire va s'effondrer? Qu'est-ce que je fais? En fait, mais le pognon, du coup, il va disparaître aussi parce qu'il sera coincé à la banque. Donc, est-ce qu'il faut que j'investisse dans du bien matériel maintenant? C'est des espèces de trucs que moi, je me pose comme question. Et moi, j'ai mon approche pratique parce que je me dis, je veux bien prendre des décisions, mais par contre, peut-être d'incertitude de quelles seront les bonnes décisions à prendre, même pas pour soi, mais pour sa survie, en fait. Et du coup, Du coup, là, je m'intéresse un peu à tout ça et de manière vraiment pas du tout sarcastique, mais enfin, en tout cas la collapsologie ou vraiment le futur à 10, à 20, à 30, à 50 ans. Parce qu'en ce moment, ça déconne pas. Genre, vraiment, on n'a pas les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes visions du futur que nos parents ou les générations d'avant. Parce que là, on voit très clairement qu'on arrive à une fin. Et on ne sait pas si c'est une fin de société, on ne sait pas si c'est une fin du monde, on ne sait pas si c'est une fin de la planète. Et du coup, ouais, moi, ça me pose beaucoup de questions et je ne veux pas être fataliste du tout. Et le truc aussi, c'est que il y a ce truc de moi, je ne tiens pas à ma survie. Alors, comment dire, je ne tiens pas à survivre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que dans les films survivalistes, un peu, les gens, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vivre quoi qu'il arrive, etc. Bon, moi, s'il faut vraiment une fin société, tout ça, moi, je veux bien un projet de société qui est cool après, mais si c'est pour juste se battre avec les autres, comme The Walking Dead, tuez-moi, c'est pas très grave. J'aurais vécu ce que j'aurais vécu. Mais juste, c'est juste pour survivre et pas pour vivre avec un vrai projet de société derrière, une vraie collectivité aussi. Ouais. Moi, je veux bien, parce que vivre solo, juste avec son gun, tu vois, à attendre que les autres t'attaquent et tout ça, moi, je veux pas du tout de cette vie-là, quoi. Vraiment... C'est pour ça, le délire survivaliste masculiniste, il est délirant, quoi, parce que moi, je comprends pas ce truc-là où les mecs sont en mode « faut se préparer à tout, faut viser, faut bloquer toutes les issues, non, non, non. » On veut pas réfléchir à un truc commun, quoi, vraiment. Donc voilà, moi, c'est pas tant être angoissé sur moi, ce que je vais faire, c'est plutôt comment me placer dans un futur assez incertain et comment je peux réussir à tirer mon aiguille... Je sais pas quelle est l'expression, mais
épingle, ouais.
Mon épingle du jeu là-dedans, quoi. C'est plutôt là-dessus.
Je trouve ça assez intéressant de voir un parallèle cohérent entre ta position là sur l'éventuelle destruction de la civilisation et comment est-ce qu'on vit ou survit. Et ce que tu disais sur le fait d'être de bien vouloir militer mais pas en permanence, que finalement, pour pouvoir bien militer, il faut d'abord vivre et bien vivre. Mmh. Et finalement, tu as la même position dans les deux. Et je trouve ça chouette. donc, je ne t'imagine pas particulièrement serein, du coup, en ce qui concerne l'avenir. Et c'est marrant parce que la question suivante, c'est quoi ton but dans la vie? Comment est-ce que tu t'imagines quand tu seras vieux?
Alors... Très, très cool, mais moi j'ai toujours eu des parcours très tracés de vie et j'ai toujours su ce que je voulais avoir comme achievement dans ma vie, mais ça a changé souvent. Mais par contre, j'ai toujours su. Ce qui fait que j'ai jamais eu peur d'avoir des gros rêves, mais des très gros trucs et de mettre en place les petits steps pour y arriver. Et de changer d'avis en fait très souvent. Mais par contre, j'ai jamais été dans l'incertitude. Genre, vraiment au lycée, je savais, par exemple, je peux te dire mon parcours de lycée. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué, donc c'est vraiment des études assez élitistes où il faut avoir une très bonne moyenne scolaire pour rentrer, déjà dans le bac, puis après dans les études supérieures. Moi, comme je disais, j'ai vraiment toujours été une bête de concours, donc c'était totalement fait pour moi, quoi. Parce que j'ai des parents enseignants aussi, parce que j'avais toutes les conditions pour être très fort à l'école. Et du coup, moi, vraiment, au lycée, je me voyais faire mes études dans l'école, dans une école précise, puis devenir directrice artistique d'un magazine de mode, après aller vivre au Danemark. je sais pas pourquoi je voulais aller vivre au Danemark, mais j'étais dit, ok, à 30 ans, et après je commencerai le violoncelle à cet âge-là, parce que je voulais faire du violoncelle, mais j'avais pas les ressources, tu vois. Je me dirais, et après j'aurai des enfants vers la trentaine, et après vers 50 ans on reviendra en France, comme ça ils seront bilingues, et voilà. mais j'ai toujours eu envie de faire carrière, et ça c'est... Ça a toujours été un truc que j'ai toujours voulu dans ma vie, mais pas faire carrière dans le sens d'avoir des postes à responsabilité, mais au moins faire un truc, quoi. Et genre, pas non plus pour la postérité, on s'en fout un peu, mais au moins pour avoir kiffé et pas m'être laissé entraîner dans un espèce de schéma de vie ou médiocre, en fait. Je pense que j'ai toujours eu très peur de la médiocrité, et malheureusement, on ne peut pas tous être exceptionnel, il faut accepter ça aussi que... Mais en tout cas, moi, je me suis toujours dit le moins possible, quand même. Être un petit peu exceptionnel, un tout petit peu quand je peux, quoi.
T'es le deuxième mec trans en 12 heures qui me parle de déménager au Danemark, c'est rigolo.
Trop drôle. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette idée. Pourtant, quand j'y suis allée, j'ai pas du tout aimé Copenhague, donc je lui ai abandonné l'idée. Et en fait, devenir queer, ça a totalement chamboulé ces schémas-là. Mm-hmm. Parce que tu peux pas faire carrière de la même manière. Tu peux pas être une... Wonder Woman, directrice artistique, tu rentres pas dans les mêmes schémas, tu es plus dans les mêmes. Et du coup, ça a fait péter un peu tout ça, mais c'est pas grave parce que je m'en suis reconstruite d'autres trucs à côté. Moi, j'ai une entreprise de traiteur éco-responsable que j'ai montée à mes 18 ans, que j'ai eu pendant 3 ans. J'avais des salariés, tout ça. Enfin, j'avais vraiment été boss très jeune. J'ai arrêté mes études pour ça et tout ça. Donc, ouais, j'ai jamais été à la fac, par exemple. J'ai arrêté après le BTS, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu tracé ma voie et fait les trucs qu'on n'attendait pas trop de moi, parce qu'avec le parcours que j'avais, j'aurais fait un master, enfin, c'est sûr. J'aurais pu faire Sciences Po, whatever. Enfin, je sais pas, si je m'étais donné les moyens, je l'aurais fait. Mais du coup, là, le truc dont je peux parler, parce que je pense que ça devient de plus en plus concret, même si j'en parle très peu, c'est un livre. Alors, je devais avoir rendez-vous demain avec l'éditrice. Là, le Covid, donc, c'est annulé. Mais alors, du coup, comment ça arrivait? C'est que moi, j'ai toujours aimé écrire, mais alors vraiment beaucoup. J'ai toujours lu, etc. Ça, c'est aussi un vrai privilège, parce que mon père aussi, il aime beaucoup lire. Donc, j'ai toujours eu des livres chez moi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et j'ai toujours eu accès aux livres que je voulais aussi. Et on a toujours été à la bibliothèque municipale, etc. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et à partir de là, donc, moi, j'ai toujours écrit aussi. Et je pense que mon premier roman, je l'ai écrit quand j'avais 12 ans, quoi. Et déjà, à cet âge-là, moi, je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Et on m'avait dit non, bien sûr, parce que c'est pas ouf. Mais, et du coup, j'en avais acheté, ok. Et du coup, j'en avais réécrit à 16 ans. Et je l'avais envoyé, pareil. Je me suis dit, mais j'ai rien à perdre, en fait. Et on m'avait dit non, pareil, je l'ai réécrit à 20 ans. Et on m'a dit non aussi. Ok, et là, je l'ai réécrit à 22. Et je l'ai envoyé pendant le confinement l'année dernière. Je l'ai terminé à une agente littéraire.
C'est toujours le même livre qui est réécrit?
Non. C'était à chaque fois, c'était des nouveaux projets. Mais juste recommencer un projet, quoi, de me dire, ok, c'est pas grave, ça passera la prochaine fois. Et là, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, ok, ça m'intéresse. Et du coup, ça fait depuis un an, je réécris des choses. Mmh. Elle l'a présenté à plusieurs maisons qui ont été pas intéressées ou qui ont fait des retours, etc. Et là, elle l'a présenté à Stock. Je devais avoir le rendez-vous demain. Mais là, elle m'a dit qu'elle avait le Covid, donc on repousse. Mais voilà, Stock. Voilà. C'est ça le projet. Donc, et y a ce truc-là de Mehdi, en fait... C'est pas le quand on peut, parce que je déteste cette phrase-là, et c'est pas vrai, mais c'est juste moi quand je veux, moi en fait, je l'ai voulu. Et parce que je sais que j'en avais les capacités, et parce qu'on m'a pas attendu sur ça, et personne m'a aidé pour le coup. Parce que moi, il n'y a pas papa, maman qui bosse à Paris dans les maisons d'édition, parce que je sais comment ça marche. C'est on te met sur en haut de la pile si tu connais l'édition, et si juste tu l'envoies par la poste, il y a de très grandes chances que tu finisses la poubelle, que personne l'ouvre, parce qu'ils en reçoivent beaucoup trop. Donc. Moi, j'ai beaucoup de rage, en fait, par rapport à ce truc-là, parce que quand je vois des gens qui sont publiés à 16, 18 ans, qui racontent leur vie, en plus, mais leur vie de bourgeois dans le 16e, et j'en ai plusieurs, hein, des titres de livres, mais je les déteste tellement, parce qu'on ne peut pas tous faire ça, en fait, se raconter sa vie, une espèce d'autofiction de bourgeois, et être publié à 18 ans, mais qu'est-ce que c'est que ça, vraiment, et que tout le monde s'en étonne et trouve ça incroyable, c'est bien écrit, si jeune, etc. Mais moi aussi, à 16 ans, j'avais écrit, hein. Mais juste, il n'y avait personne pour me faire des retours, pour me dire que ça m'a, qu'on ne peut pas écrire, que la narration n'est pas bonne, que pour me relire, pour m'aider, pour envoyer ce truc-là à un copain de papa qui bosse dans une maison, etc. Moi, je n'ai pas tout ça. Et moi, le seul truc que j'avais, c'était juste dans ma tête, mais être persuadée que ça en valait la peine. Et si je n'avais pas eu ce truc-là, en fait, j'aurais abandonné. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas fait pour moi. On m'a déjà dit 3 fois non, tant pis, quoi. Et vraiment, s'il n'y a pas ce truc-là, je le fais plus. Enfin, j'arrête d'y passer du temps, quoi. Mais comme je sais que ça va le faire et que j'y crois, parce que j'ai beaucoup d'orgueil, ça le fait. Et c'est vraiment un achèvement incroyable, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, ouais, c'est assez gros, quoi. Voilà.
Très bien. Mmh. Donc, vieux, tu seras écrivain.
Je sais pas si je veux faire carrière, mais en tout cas, j'aurais écrit un livre et ça. Okay.
Déjà ça.
C'est déjà très bien.
En conclusion, est-ce que tu as un conseil à donner? Quelque chose que tu aurais aimé voir ou savoir avant, plus tôt dans ta vie?
Très bonne question. Je pense que... Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que tout est possible, en fait. Enfin, qu'il y a, il y a des, on n'est pas, enfin, c'est toujours le truc cliché de dire on n'est pas seul, mais c'est vrai, je pense, de se dire, et même si on le sait, on s'en doute qu'on n'est pas seul, mais de se dire que il y a des gens, il y aura toujours des gens dont le parcours va résonner et qui trouveront de la force, ou en tout cas de l'écho dans les paroles des autres. Je pense que ça encourage aussi à parler et à se raconter, et du coup à créer ses propres archives aussi. Moi, j'y tiens beaucoup au fait d'archiver nos vies queer, parce que personne ne le fera à notre place. Et le projet des archives LGBT est très très intéressant, et il faut vraiment le soutenir là-dessus. Mais qu'en tout cas, ces vies-là existent pour de vrai. Enfin, c'est pas juste dans sa tête, quoi. Je pense que moi, tous les placards que j'avais, c'était parce que je ne voyais pas de mecs trans autour de moi, et je vois les représentations qu'on a maintenant. S'il y avait eu Scam France quand j'avais 15 ans, mais quel bonheur. Je pense que tout aurait tellement pu aller vite, quoi. Donc que rendre accessible nos vies, comme le dit Alice Coffin dans Le Génie lesbien, de sortir de la placardologie à la française, ça devient une responsabilité à partir du moment où tu as gagné certains privilèges de vie, de sécurité, de bien-être, de pouvoir parler et de pouvoir se raconter. Et du coup, voilà, moi, la première chose, c'est, ouais, je pense que c'est de parler, de pas se taire quand on a compris qui on est, de pouvoir se raconter, parce que ça aide les autres, je pense. Voilà.
C'est pour ça qu'on est là.
Voilà, on a bouclé la boucle.
Parfait. J'ai une dernière question qui est: où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux mettre en avant, etc.?
Le mieux, je pense, c'est Instagram. C'est, mon compte, c'est AliBottom, H-A-L-I underscore bottom, B-O-T-O-M. Je pense que c'est là où c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, sur lequel je partage des fois des écrits, des réflexions, mais un peu de moins en moins, parce que c'est quand même très chronophage et ça enferme quand même dans un type de militantisme, mais en tout cas ça. Et puis le projet Pia Pia Media aussi, bien sûr, ça, piapia.asso.media sur Instagram aussi, pour voir toutes les productions qu'on écrit ensemble. Voilà. De quoi ?
Et puis la constellation.
Et puis la putain, oui. et puis bien sûr, il faut suivre la constellation aussi, il faut nous donner de la force, parce que là, c'est compliqué en ces temps-là. On a un YouTube sur lequel on peut faire des dons ou acheter des goodies. Et puis bientôt, donc on lance la carte emportée, donc faut pas hésiter à passer commande. Promis, c'est très très bon. C'est VG, voire vegan pour certains plats. Et c'est pas juste commander de la bouffe, faut commander de la bouffe. Il y a une vraie démarche derrière. C'est un vrai soutien qui nous est très précieux. Et notre lieu, là, il est vraiment en situation de précarité. Donc voilà, faut pas hésiter à bien investir son argent. Voilà, pour nous aider.
Super. Merci beaucoup, Annelie. Merci, Annelie Victoire, de tes nombreuses idées et de ton énergie sans fin pour les mettre en route. Allez visiter les pages de Pia Pia Media et du podcast Tarenne, qui raconte les biographies trop souvent passées sous silence des personnalités queer de notre histoire. Allez voir aussi les autres membres du collectif Nouvelle Radio Euphorique. Vous connaissez déjà probablement un podcast trans. Allez jeter une oreille sur Polycule, dont j'ai eu l'honneur d'être la première invitée, et sur le podcast Omelette, dont le but avoué est de casser des œufs. Si vous savez, vous savez. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Nova Trans. Allez voir nos archives. Après tout, ça date de la même époque. À bientôt pour un épisode plus récent. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. N'oubliez pas de partager cet épisode et le podcast et les autres podcasts de NRE. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans, une oreille à la fois. Ici ou ailleurs, merci d'écouter nos voix trans.